plus de poisson, plus de crusty bat, plus de fish and chips, plus de...
Plus de pub.
Mais toi, tu penses à la bouffe tout de suite.
Plus de kiff. Bah, quand je, tu me parles poisson, je pense bouffe, ouais.
Ouais. Mais pense sexe,
c'est bien ça.
Le
ça changera ta vie. In a world. No, in a world, Jack. What do you mean, no, in a world? It's not that kind of movie. Oh, okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fait à Béa, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Aujourd'hui, notre mission, faire bouger son tabou, son pression, n'y relâche jusqu'au bout. Et je sais que vous partagez notre passion et cela nous donne des raisons d'innover le maximum sur cette piste. Allons jusqu'au summum, oui j'insiste, effaçons toutes les tensions ce soir, c'est Béa à fond la France, car quand on prend le mic, on s'enflamme. Je vous sens bien hot, ma team. C'est ça qu'on veut. On veut mettre le feu et on sent la chaleur qui s'installe. Certains talents se dévoilent. Oh, je veux que tout le monde bouge ses fesses. Que les tons oublient leur complexe. Poisson sexe. Oh ouais. Oui, maintenant faut que ça bouge. Que tout le monde soit dans le move. Poisson sexe. Oh ouais. Bougez votre boule, ma team, sur cette BA, je vous emmène. Bougez votre body, ma team, sur mon flow sans gêne. Et présentez-vous comme il se doit, bande de poissons coquins. Ambiance. Tu veux rencontrer des poissons chauds dans ta région? Il te suffit d'envoyer Béa au 3232. Allez, on se laisse tenter et on regarde si la pêche a été bonne, a été chaude. Ouh. Clémence est avec nous ce soir autour de la table.
Salut, c'est moi le Vivanus. Mon petit Vivanus tout rose et boursouflé. Bon, je vous laisse.
C'est ton cri de poisson, ça.
C'est ton cri de poisson sexe.
Kevin aussi, petit poisson coquin.
Bonjour, je suis le Dildorade. Un poisson parfait pour égayer vos nuits de solitude. Blop.
Blop. Il a dit blop. Clément, petit poisson coquin aussi.
Salut, je suis le Barracoudrin. Passez derrière le bar, il vous met un coup de rein. Barracoudrin.
J'ai honte de ce poisson. Et toi, Romain, t'es quel poisson sexe?
Salut à tous, je suis un cliton rouge. Je suis un poisson que beaucoup de pêcheurs cherchent mais ne trouvent jamais. Je suis le cliton rouge. Cliton rouge.
Vous aussi, auditeurs, si vous avez des idées de poissons sexe,
envoyez-les-nous,
nous vous répondrons peut-être.
Je savais pas où aller cette intro, mais là, voilà.
Johanna a pensé à l'arrêt.
Une ré du cul. Yeah.
Après, j'aimerais qu'on fasse quand même une ovation pour William avec son poisson chat qui était l'évidence et que il n'est pas là pour le défendre, malheureusement. Et
poisson chat, évidemment, c'était l'évidence. Bon, allez, on passe au sommaire, les amis, mes petits poissons. Mais vous êtes mes beaux poissons.
Vous êtes mes beaux chiens.
Avec le fouet là. Avancez, mes beaux poissons.
Allez, comme vous l'aurez compris par ces présentations des plus... Fiou là là, j'ai chaud. Et cette intro ambiance Tribal King, aujourd'hui il est question de la BA du film Poisson Sexe d'Olivier Babinet. À l'heure où les films américains se font rares sur nos écrans, le cinéma franco-belge s'invite dans nos salles avec ce film au titre simple, basique, efficace, car il semble simplement s'agir de l'histoire d'un homme passionné de poissons et en mal de sexe. Et nous aurons largement de quoi dans nos filets pour vous écailler cette BA afin d'en pénétrer ses mystères. Et, en parlant de mystères... En voilà un autre de levé depuis notre dernier épisode, car oui, ça y est, nous avons enfin vu Tenet, l'œuvre complexe, peut-être trop, de Christopher Nolan lui-même annoncé comme le sauveur du cinéma face à cette crise sanitaire mondiale qui met des bâtons dans les roues du 7e art. Alors qu'en est-il ? Nos petits cerveaux ont-ils résisté au dédale cinématographique qu'est Tenet ? On vous dira tout en deuxième partie d'émission pour un match retour, non pas dans les deux sens, mais dans un seul, et spoiler alert, après Inception, place à la Deception. Ah, voilà, pour ce qui est du sommaire. Bon, mes petits bloup bloup, mes petits poissons.
Blab. Blab.
On nage vers la BA de la semaine. Vous êtes prêts ?
Oui. Ok.
Alors suivez-moi dans le CEA, courant est australien.
Ah, j'ai compris.
Ah, la référence.
Par rapport à Nemo.
Miranda, 25 km au territorial française.
Il est là. Là au fond, là.
Il n'y a rien, là, Daniel.
Je vous rappelle qu'on n'a pas vu la queue d'un poisson sur les côtes françaises depuis 2 ans.
Et là, il y a un vrai problème entre eux, là.
Les poissons, faut leur parler, c'est tout. Faut les regarder en face.
Il y a des millions de mecs qui fuient l'idée d'avoir des gosses et toi, tu veux changer tes couches. Pourquoi s'emmerder avec ces...
Les enfants, c'est l'avenir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de femmes à Belle-Rose. 35 000 habitants, 50,21% de femmes en âge de procréer.
T'es un grand malade, hein.
Tu retires les 7860 qui vivent en couple, ça fait
4, hein.
La dernière baleine vivante se dirige vers les côtes atlantiques. Qu'est-ce que cela signifie ?
Ça vous dirait de boire un verre ce soir ?
Moi ?
Désolée, la dernière fois que je suis venue, il y avait des petites nappes et des cocktails.
Petit poisson,
qu'est-ce que tu fais là ?
Je sais pas quoi tu joues, mais laisse tomber. Je la connais depuis la 6e. On est comme deux aimants, elle et moi.
Rien ce mec. Et là, il y avait mes piranhas. J'ai étudié le langage des piranhas.
Par exemple, quand ils frottent leur mâchoire comme ça, là, ça veut dire j'ai envie de faire l'amour.
Je crois qu'il m'a reconnu.
Les sens sont pas assez développés.
Elle a le kiff.
J'ai jamais vu une activité synaptique pareille. Allô ?
Qu'est-ce que vous faites, Daniel ?
Il parle.
Plouf, plouf. Plouf, plouf. C'est le bruit de nous tous en train de plonger dans cette BA.
Oui.
Alors, avant de l'écailler comme précité, j'aimerais qu'on parle d'abord de son réalisateur, Olivier Babinet. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose, vous, autour de la table ?
Absolument pas.
Attends. Non.
Moi non plus, pas du tout. J'avais vu passer quelques affiches de Swagger, qui est un film documentaire qui semble parler des jeunes dans les cités et ouais. Qui a reçu pas mal d'ovations, de critiques très positives. Voilà pour ce qu'il en est. Et là, il nous sort Poisson Sexe.
Et il avait fait un premier film de fiction qui s'appelle Robert Mitchum est mort.
Ah, c'est lui ça ?
C'est pas de la fiction, ah. Il est vraiment mort.
Mais mon Dieu, il a raison.
Ça remonte, ça remonte à au moins il y a 8 ans ça.
Ben, je sais pas, il y avait Olivier Gourmet dedans apparemment, mais j'ai pas vu. Mais la BA de, je sais pas si on dit Swagger ou Swagger d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un film sur le swag. Mais la BA de Swagger est super bien. Ça a l'air d'être, il a l'air d'être parti de témoignages d'adolescents qui parlent du style notamment, et ensuite d'avoir mis en scène en fiction ces témoignages. Et la photo est hyper belle. Enfin, ça me donne envie de le voir.
Allez, on passe à la BA de la semaine, mais avant. Évidemment, comme à son habitude, notre ordinateur, El Calculator, est là pour nous compter les plans.
C'est moi, c'est moi. Bonjour les poissons.
Bloup bloup.
Wow. Dans Poisson Sexe, il y a 60 plans en 1 minute 50, soit 0,5 plans par seconde.
Ah. Ou sous la moyenne.
C'est
la
moyenne. Une moyenne moyenne.
C'est une petite, même pas une moyenne en fait, parce que la moyenne est en 0,6, El Calculator. Oublié,
tu as raison. Voulez-vous découvrir mon poisson sexe ?
Ah oui !
Mais quelle proposition, dis donc !
Avec joie !
Je suis El Calculator tu.
Oh
oui. C'est alors pas un
ça,
poisson.
Ça marche pas parce que c'est pas un poisson et qu'il n'y a pas de sexe, El Calculator. Tais-toi ! Bah. Putain, c'est trop tendu entre nous.
Il faut toujours que ça cherche l'embrouille. Là,
vous, deux, vous deux, c'est incroyable comment vous n'entendez pas. Quoi. T'en as pensé quoi de cette BA, El Calculator ?
Ça semble loufoque.
Loufoque.
Loufoque, un autre poisson sexe.
Oh.
Alors, presque.
Bah, arrête, Clément.
Faudra
arrête.
Lui apprendre un peu le répertoire des poissons, L-Calculator.
Il veut participer, Clément. Pourquoi tu le bloques
c'est
comme
vrai,
ça?
C'est vrai, mais exprime-toi, L-Calculator. Voulez-vous entendre ma nouvelle fonctionnalité?
Oui, 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 on l'a présenté la semaine dernière, vas-y.
Le film durant 1h29 et la BA contenant 1 minute 36 d'image, j'ai pu déterminer que la BA révèle 1,9% du film.
Waouh.
Wow.
C'est beaucoup, non?
C'est plus que Tenet. Et c'est moins que peut-être le prochain film.
On ne sait pas encore.
Je m'avance un peu. 1,9% du film dans cette BA. 1h29 de film, c'est cool, hein? C'est pas trop long.
C'est pas trop long.
Ça dure moins qu'un match de foot.
C'est vrai, ça. Voilà.
Bah, merci le calculator. C'est bien sympa d'être passé.
De rien.
Tu peux retourner dans
Je repars à la nage.
Tu fais quoi comme nage?
Le scroll. Au revoir.
Au revoir, le calculator.
Salut. Allez, éteins-toi. Merci.
Ah, c'était la galère aujourd'hui pour lui. Ouais.
Donc, la BA de la semaine, c'est Poisson Sexe. Et on y va tout de suite. Alors, cette BA, elle s'ouvre sur le cours.
Pourquoi t'es ralenti?
Il parle sous l'eau. Ça s'ouvre sur une course de baleine.
Parle comme une baleine.
Oui.
Ah
oui.
Ah, c'est ressemblant, dis donc. Je m'en suis tromperais.
J'ai que des références à Nemo aujourd'hui.
Ouais.
Wow. Bien sûr, c'est la baleine. Comment s'appelle-t-elle?
Miranda,
la baleine.
Miranda, ouais. Alors, on voit une jeune personne qui observe une baleine sur son écran.
Radar.
Mais non.
Non, c'est mais aux non. infos, c'est aux infos.
Mais non, mais oh là là, les gars.
Qui a mis la caméra sous l'eau pour regarder la baleine?
Bah, je sais pas, il y a.
Non, mec, elle a une balise GPS.
Il y a plein de. Renseignez-vous, mais il y a plein de streams de.
De baleines.
Non, pas de queue, mais d'animaux.
La baleine streaming.
Ah bon? Genre, tu peux regarder des oiseaux, tu peux regarder des otaries.
Mais c'est la jeune fille qui regarde la baleine.
Oui, sur un site qui s'appelle miranda.org.
D'accord.
Et c'est un écran qui est très complexe parce qu'on y voit tout plein de choses sur cet écran. Le rythme cardiaque de la baleine, son itinéraire Waze, Google Maps, voilà.
Ouais. Donc ses derniers morceaux
sa vitesse,
sur
25 km/h, pardon.
Je t'en prie.
Et cette jeune fille semble se délecter de ce spectacle qui est très beau mais qui a l'air aussi très triste.
Et pourquoi?
Ah, ça, on va le découvrir plus tard dans la baie. En tout cas, la pancarte du prix spécial du jury au Fifib.
Oui.
Le Fifib.
Le
Mais qu'est-ce que c'est que donc?
C'est un petit fien.
C'est le festival international du film international de Belgique.
De Bordeaux. L'homme ne lit pas.
Non, j'ai pas lu.
Festival international du film de Bordeaux. Évidemment, il y a un i, on sait pas trop à quoi il sert, mais je pense que c'était juste pour pas faire fib.
Fifib.
Fallait rajouter une voyelle entre ça. Et là, un plan large de la mer avec trois hommes qui sont face à elle, dont un à gauche qui a l'air de poser une pêche. Vous n'avez pas fait gaffe?
Non, je n'ai pas vu. Une canne à pêche, tu veux dire?
Non.
Ah.
On dirait qu'il fait caca.
Ah, je n'ai pas vu.
Ben, ça ne m'a pas évoqué ce genre de pratique.
Dans le sable. Tu n'as jamais fait caca dans le sable?
Si, mais je n'ai pas vu le
ça
mec
dans
le faire.
Ah, mais vous n'êtes pas aussi attentif que moi pour décrypter les BA.
Ah, mais quel œil aiguisé.
Vous n'arriverez jamais à mon niveau.
C'est ta voix de baleine?
Non, c'est ma voix de méchant. D'accord. Alors là, on a l'intro du Grolandais.
Oui.
Je l'appelle le Grolandais parce qu'il est Grolandais. Clairement, Gustave Kervern qui apparemment ne sait pas utiliser un pèse-personne dans cette BA.
Pourquoi?
Je sais pas, vous avez pas fait gaffe à cette espèce d'appareil qu'il a dans les mains?
On dirait une enveloppe derrière.
Non, on dirait une balance, mais pour la cuisine.
Mais le plan d'après, il y a un poisson téléguidé, donc je pense qu'il y a un indice visuel.
Ah, peut-être que
c'est une télécommande.
Oui.
Waouh, mais t'es trop fort.
Merci.
T'es trop fort pour décrypter
pour
les BA.
Pour décrypter les choses.
Effectivement, on dirait qu'il conduit un poisson. Et là, première question, what the fuck, pourquoi?
Mais c'est sûrement un poisson robot.
Il cherche des poissons.
Et
il
oui,
cherche des poissons.
Parce qu'on l'apprend juste après, je pense pas aller trop vite dans la bande-annonce, il n'y a plus de poissons sur Terre, dans ce monde. Et la baleine que tout le monde regarde sur cet écran est la dernière baleine sur Terre.
On est quand alors du coup? Est-ce qu'on est dans une...
Oh,
dans
bah, un... Sûrement en 2022.
Dans un...
Pour être un peu réaliste.
Est... Ah ouais, la fille est très très pessimiste. Quoi. D'ici 2022, plus de baleines, plus de poissons. Hein. Vous y accrochez pas hein. Effectivement, oui, on a l'air d'être dans un futur dystopique dans cette BA. Et donc, oui, il conduit un poisson qui s'apprête à manger un petit bout d'Aoste, on dirait.
D'Aoste?
Je crois que c'est du jambon cuit.
Mais non, c'est une méduse.
Ah oui, bah, je sais pas, moi.
Je crois que c'est une méduse. Hein. Non, mais en fait, je crois que tu fabules, Clément. Il y a quand même des poissons.
Ah non.
Il y a la dernière baleine.
Puisque la scientifique, elle dit. Si, la scientifique, elle dit nous n'avons plus vu de poissons depuis au moins 2 ans.
Oui, mais on voit des petits poissons dans un aquarium et moi, je vois une méduse. Non, c'est un poisson, une méduse.
D'accord, il n'y a plus de poissons dans l'océan, en fait. Mais elle dit exactement sur un très bel accent je vous rappelle qu'on n'a pas vu la queue d'un poisson sur les côtes françaises depuis 2 ans.
Bah, c'est juste qu'il n'y a plus de queue de poisson.
Parce que les gens conduisent bien. En Bretagne, tout le monde conduit.
J'adore cette blague d'autoroute.
Mais c'est vrai, en fait, c'est une bonne idée. Si jamais il n'y avait plus de poissons en 2022 dans l'océan, on pourrait prendre les poissons des aquariums et les mettre dans l'océan. L'eau.
Comme ça, ils mourraient.
Mais je sais pas ce qui se passerait. il se passerait quoi
Je sauverai le monde en 2022. Ne vous en faites pas.
Alors, oui, voilà, je le rappelle. Je vous rappelle qu'on n'a pas vu la queue d'un poisson depuis deux ans dans les côtes. Vous pensez que c'est qui celle-là, là, cette blonde
Une scientifique.
C'est une thalassozoologiste.
Effectivement. Wow. Bravo, Kevin. Vous avez 1000 points.
Merci beaucoup.
T'as la zoologiste, donc elle fait des massages à des animaux ?
Non.
Ah.
c'est une zoologiste spécialiste de Thalassa.
Et là, typiquement, dans une BA de film français, on lui répond bah là, il n'y a pas de
C'est vrai, ça c'est un bon argument.
On n'est pas d'accord, il lui dit il n'y a pas de problème là.
Oui, il y a des moments c'est très peu articulé. Hein.
Articulé, bon, je sais que c'est un comble que ce soit moi qui le dise, mais articulé, putain de.
Non, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que les gens ne reculent pas du tout.
Un petit jeune prend la relève dans la BA et dit il faut parler aux poissons, il les regardait en face.
Il n'y en a plus ou il y en a alors, merde.
Non, mais,
c'est celui qui s'occupe des deux petits guppies là.
Des
c'est,
quoi
des c'est des guppies.
Ah,
wow, petits poissons. T'es parti jusqu'à chercher là.
Non, j'ai pas cherché, j'improvise.
Je suis passionné.
À mon avis, ce sont des guppies, ça ressemble à des guppies.
C'est okay. Très bon avec de la béarnaise.
Est-ce qu'on peut établir une théorie ?
C'est peut-être des petits anchois en fait.
As-tu une théorie ?
J'ai une théorie, c'est que tous ces gens sont océanographes et que le lieu qu'on voit, c'est un centre océanographique. Et je pense qu'ils travaillent tous là. La petite Jeanne avec les cheveux roses, Gustave Kervern, la scientifique qui a l'air allemande, le petit jeune qui dit qu'il faut parler aux poissons. Ils travaillent tous dans ce centre.
Alors je suis à 98% d'accord avec toi.
D'accord.
J'ai 2% de désaccord sur la petite Jeanne aux cheveux roses, mais on va y revenir plus tard. Alors Gustave Kervern, à ce moment-là, dans la BA, après que le jeune homme a dit qu'il fallait parler aux poissons, alors parler aux poissons, apparemment, ça fait du bien. Gustave installe un mobile dans une chambre d'enfant, j'ai l'impression. Et là, est-ce qu'on n'a pas déjà établi un petit lien avec lui sur ses envies de paternité ?
En fait, là, il y a vraiment un tournant dans la BA parce que déjà, il installe un mobile, c'est même pas des poissons, c'est des oiseaux.
C'est des oiseaux.
Donc, clairement, on n'est plus dans le sujet poisson.
Oiseau
et
sexe.
Par contre, on ouvre un nouveau sujet qui est il veut des enfants.
Oui.
Et ce ne sont pas des poissons non plus, des enfants.
Bah non.
Ouais. Faut savoir ce qu'il veut. Tu veux du
et
poisson, du sexe et des enfants.
Enfant-poisson.
Parce qu'il installe un mobile, mais il n'a pas d'enfant.
Qu'on soit bien clair, il n'a pas d'enfant.
Pas d'enfant.
Très bien, nous pouvons continuer la BA.
Très un peu une tarte d'argent.
Ça me rassure.
Ah oui, non mais attends, t'as loupé un truc là.
Oui,
c'est
très
que
important.
À un moment, donc on développe son envie d'avoir des enfants et il parle quand même avec une pote à lui en disant mais il y a quand même un problème, c'est que dans ce bled ici, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et là, il y a un savant calcul auquel je n'ai rien compris, même en voyant 5 fois la BA.
Il essaye de calculer le nombre de femmes qui sont entre guillemets fécondables.
Il explique qu'il y a 35,1% de femmes dans leur bled à Belle Rose. Et sur 35 000 habitants, tu retires les 7 000 meufs qui restent et il reste quoi ?
4
meufs. Je comprends rien. 4 meufs. Quand 4 tu meufs. Le redis.
Bah oui, mais parce que l'homme veut copuler. L'homme aime les poissons, mais l'homme aime aussi le sexe.
Excusez-moi, je suis en désaccord avec ce que dit Clément, ce n'est pas son ami, c'est sa sœur.
Moi, je pense que c'est sa sœur aussi.
Parce que sinon, il voudrait la baiser.
Excusez-moi. Ou alors, elle est en couple.
Moi, je pense.
Je ne saurais pas dire parce que je n'ai pas compris le calcul, mais en tout cas, c'est marrant.
Mais c'est pas compliqué, s'il y a 5400 femmes et que t'en enlèves 2. Il en reste 4.
Le compte est bon.
De toute façon, moi, je leur fais confiance, c'est des scientifiques.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'ils cherchent forcément l'amour. On a surtout l'impression qu'ils cherchent à procréer et qu'ils veulent surtout avoir un rapport pour avoir des enfants. Que son enjeu, c'est plus d'être père.
Oui, mais enfin,
bah,
je veux dire, pour devenir père, il faut une base d'amour, non ?
Non, pas forcément, non, Romain. Ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, l'histoire d'amour, elle va naître plutôt dans un second temps, derrière l'enjeu d'être père.
Je plus sois ce que tu dis. Je pense que c'est un personnage scientifique et qui du coup n'envisage la vie que sous le prisme de la science et que le trajet du film, enfin l'évolution du personnage, c'est qu'il va découvrir l'amour et il va découvrir que ce n'est pas que des statistiques et que il y a une étincelle de magie qui va se mettre dans tout ça.
D'où je pense qu'elle n'est pas du tout scientifique et qu'au contraire, elle va
peut-être
l'ouvrir à de nouvelles perspectives de vie justement en dehors des calculs et des théorèmes et
des poissons.
Ouais, exactement. Et c'est ça l'amour, n'est-ce pas, se compléter dans son union. Exposition de la ville à ce moment-là, de très beaux plans, j'ai trouvé.
Oui.
Sur une ville qui s'appelle
Belle Rose.
Belle Rose.
Et qui, je pense, n'existe pas. Peut-être que je m'avance.
Eh bien, figure-toi que je suis allé en vacances à Belle Rose.
Et que c'est très, très beau.
C'est très sympa et je vous conseille d'y aller, c'est en Loire-Atlantique.
On y fait de très belles tapenades.
La spécialité de la
Belle Rose. Belle Rose, et là, ça rejoint notre délire déjà de futur dystopique parce que je ne sais pas si c'est parce que c'est près des côtes. Peut-être qu'il y a des villes comme ça en France, mais en tout cas, le sable est présent à peu près partout dans la ville. Ça rappelle un peu, pour faire référence en plus à notre match retour qui arrive, à Interstellar où la poussière avait pris possession des meubles.
Et du coup, le rapport est évident.
Mais du coup, quand tu fais le ménage, est-ce que tu fais un exorcisme de meubles?
Comment hein? Ça
si la poussière prend possession des meubles.
Waouh, oui, une blague poussée.
Là là. Excusez-moi. Poussiéreuse.
Mais nous n'y attardons pas. Et là, Clément, je reviens sur mes 2% de désaccord avec toi parce qu'on on arrive dans un café. Ouais. Il y a BFM TV à la télé où là, on apprend effectivement que la dernière baleine vivante se dirige vers les côtes atlantiques. Ils ne savent pas pourquoi, les 98% d'océanographes.
Il y a écrit qu'elle est à la dérive. Tu sais, ça arrive en vrai.
Des baleines à la dérive,
oui. Que des cétacés soient à la dérive parce que leur habitat est perturbé, qu'ils sont menacés à cause de nos appareils, de nos trucs et tout.
Bah là,
des fois, à cause des sonars et tout, ils vont dans des directions où ils ne sont pas censés aller.
Bah là, je pense que oui, ouais, elle est vachement perturbée dans le sens où il n'y en a plus qu'une. Donc, à mon avis, l'humain a bien foutu le bordel dans tout ça, étant donné qu'il n'y a plus qu'une seule baleine.
Elle aussi, elle cherche l'amour, peut-être.
Peut-être.
Tout à fait. Elle veut des enfants, elle a mis un mobile.
Elle a mis un mobile dans sa chambre de baleine. On a un avis de tempête, vous avez fait attention à ce qui se passait sur la télé là, c'est très rapide mais mon œil aguerri de chercheur de BA a remarqué qu'il y avait un avis de tempête sur la France.
Mais attends, et notamment, mais pourquoi tu me dis qu'elle n'est pas océanographe?
Et j'y arrive, okay. Et notamment la Corse est en alerte rouge. La Corse est en alerte rouge. 220 km/h de vent annoncé. Et là, en fait, si je te dis que en fait, elle n'est pas océanographe, c'est parce qu'elle vient servir un café à Gustave.
Donc, mais c'est la stagiaire.
Mais non, elle travaille dans le café. Où Gustave s'est arrêté prendre un petit déj.
Parce que forcément, quelqu'un qui sert à café travaille dans le café.
Tu feras gaffe, il y a un plan au début où ils sont en blouse, là, et il me semble bien qu'elle l'est aussi.
Et je pense justement que ça arrive après qu'elle ait reçu l'invitation. Enfin, après qu'elle ait donné l'invitation à Gustave de délirer ensemble. Viens, on va boire un verre et tout.
Ouais.
Et du coup, il l'invite à venir voir son travail et il lui donne une blouse forcément parce
que le
port de la blouse est obligatoire, bien entendu.
Bien sûr.
Ce tourisme me va.
La pancarte dans la BA qui s'affiche sur une très belle police blanche sur un fond rose en rotation.
Quelle police, Romain?
Alors là, on est sur du...
En bold.
En bold, bien sûr, évidemment. Quelle question, jeune fou, qui annonce que le film est réalisé par le réalisateur de Swagger. On déterminera plus tard comment ça se prononce. Là, on a la scène, invitation, machin, nanan. Il y a Cheveux Rose qui va voir Gustave. Il lui dit, ça vous dirait de boire un verre? Même lui, il est surpris.
Ouais, je ne attends pas.
Et elle me fait penser avec ses cheveux roses à, dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind à Kate Winslet. Parce qu'en plus, il y a une ambiance, ils sont un peu au bord de la mer à un moment dans Eternal Sunshine et il y a un côté un peu mélancolique comme ça. Donc, c'est vraiment leur histoire d'amour là, naissante me fait penser à eux.
Comment s'appelle d'ailleurs cette actrice?
India Hare.
C'est marrant ça.
Et elle s'appelle Cheveux et elle a des cheveux roses.
C'est rigolo, hein.
Et d'ailleurs, elle l'emmène déjà en boîte pour leur premier rendez-vous. Donc, c'est qu'elle est déjà un peu plus fun que.
Elle l'emmène en boîte, effectivement.
Et qu'est-ce qu'ils vont écouter? Les sardines.
Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette barre. Arrêtez tout de suite. C'est un podcast qui se respecte, pas de ça ici. Donc,
change les sardines.
Entre lui et les aromates.
Bande de rebelles, petits vicieux. Alors, ambiance boîte de nuit, effectivement. Et là, ils semblent perdus tous les deux parce qu'elle lui dit un truc que j'aime beaucoup à ce moment-là.
C'est
dans la
BA.
Je suis désolé, hein, mais la dernière fois que je suis venu, il y avait des petites nappes et des cocktails.
Des cocktails, elle a dit.
Et là, il n'y a que des mecs qui ont envie de s'ambiancer sur de la bonne grosse basse. Le nouveau film d'Olivier Babinet. Je pense que c'est une extension du rendez-vous. Écoutez-moi bien. Une extension du rendez-vous. Après cette boîte de nuit, déception du coup sur le lieu de rencontre, il va l'emmener sur la plage et là, ils attrapent un Pokémon ensemble.
Oui, absolument.
Axolot.
Et quel est donc ce Pokémon qui n'est pas un Pokémon, hein, je dis Pokémon parce qu'il ressemble beaucoup à un Pokémon.
C'est un Axolot. Le
Axolot.
Axolot.
Un Axolot.
Oula, il fait une crise ou quoi là?
Je fais un AVC.
Veuillez prévenir les pompiers. Axolot, oui, ça s'écrit avec un L à la fin, mais je crois que le L est muet.
C'est un axolot.
Il me semble.
On c'est un axolot.
Axolot, comme le youtubeur Axolot.
Pokémon de type eau électrique.
C'est vrai?
Non, je crois que c'est pas les bons types.
Si, mais si, les eaux électriques dans les Pokémon, d'ailleurs, c'était la génération, ils étaient pas très inspirés parce que le Axolot Pokémon, Axoloto.
Ouais. Oui, ressemble.
Il ressemble à un axolot.
Oui,
bah son voilà. Air d'ailleurs.
C'est marrant comme espèce quand même. Ça, c'est très rigolo comme espèce. Hein.
C'est... Ah, ça a une tête improbable.
C'est
ouais.
Atypique, hein. C'est très atypique.
J'en ai rarement vu.
Un podcast océanographie.
Non, figure-toi que c'est un amphibien comme les grenouilles.
Non, enfin, ces nageoires caudales sont vraiment atypiques.
C'est très très fragile, hein. Très fragile, parce qu'il y a des gens qui peuvent en avoir comme animal de compagnie, mais apparemment, il faut vraiment avoir le bon aquarium. Il faut vraiment prendre soin. Il faut lui parler et tout.
Ouais. Et ne pas oublier les petits sachets quand il fait ses crottes dans la rue quand vous le sortez.
Oui, c'est très fragile.
Très fragile. Ouais. Évitez de le décontenancer. Quoi.
Et, ah, c'est très drôle parce qu'en fait on voit qu'ils attrapent l'axolote dans l'eau et après ils sont dans une voiture et ils ont l'axolote dans un petit sachet d'eau et mais clairement mais franchement mais c'est une pine cet axolote.
C'est une métaphore phallique.
Mais il a vraiment une tête de bite, je suis d'accord.
On est peut-être déjà oui sur une métaphore là.
C'est les roses, ils sont pas tous roses les axolotes.
Hein. De quoi, les axolotes ou les pines?
Non, les axolotes sont pas tous roses, il peut en avoir des bleus ou verts ou pas trop roses, mais là...
Les pines vertes, c'est plus dangereux.
Je peux plus te prendre au sérieux maintenant, pour moi, dès que tu dis axolote, j'entends pine.
J'entends pine, ouais.
Bah moi quand je le vois dans la BA, je le vois...
Quelle belle axolote.
Merci,
non mais
gentil.
Du coup, attends, revenons à la narration, c'est un événement puisqu'il n'y est plus censé y avoir de poisson.
Mais c'est pas un poisson.
Mais bah, si.
C'est un poisson.
Mais l'axolote, c'est comme une grenouille, c'est un amphibien.
Ah bon?
Bah bien sûr.
Oui, mais ils ont l'air quand même de décontenancer de l'avoir découvert, enfin oui. De l'avoir trouvé. Oui.
Alors moi, je crois qu'ils ne savent pas ce que c'est et qu'ils sont persuadés que c'est un poisson avec des pattes, mais c'est pas le cas.
Ah. Alors tu crois que du coup, dans le futur, ils auraient oublié que les axolotes existaient?
Bah, je pense que, franchement, tu écoutes un peu les dialogues.
Mais je les écoute, mais ils articulent pas, ils sont.
Je pense que c'est des océanographes un peu con.
Ah.
C'est un peu con. C'est pour ça qu'il n'y a plus de poissons d'ailleurs.
Ah, parce que
oui, ils n'ont pas réussi à les sauver.
Ouais, bah c'est un peu le mélange entre Idiocratie et Nemo.
Et Thalassa.
Némocratie.
Coup de pression du gars des Misérables.
Ouais.
Là, ah oui.
Très rigolo.
Ouais, il a l'air drôle. Hein.
Il a l'air plus drôle que dans Les Misérables, cet homme.
En gros, il est sur le dossier de la meuf aussi et il supporte pas que Gustave Carverne traîne avec elle.
Il lui dit tu vas pas te mettre entre nous, elle et moi, on est comme deux aimants.
Ouais. Il la connaît depuis très longtemps.
Puis la sixième, il dit.
Ouais.
Et c'est marrant parce qu'en fait, deux aimants, en fait, je sais pas si vous êtes. Moi, je suis un peu plus calé en science.
Ouais, il est bête.
Mais en fait,
bête.
Quand j'étais petit, je m'amusais amusé à essayer de faire rencontrer des aimants coûte que coûte. Ce n'est pas possible.
Car la
force opposée d'un aimant, selon son centre centrifuge.
Ça dépend de la polarité de l'aimant. Après,
exactement, polarité, c'est le mot que je cherche.
Tout à fait.
La polarité d'aimant. Donc, déjà, à ce moment-là, lui, certains de sa connerie. Bah, a déjà tort en fait. Vous êtes comme deux aimants, bah oui, vous allez rester séparés toutes vos vies. Donc laisse un peu de chance à Gustave qui lui a des envies de procréer. Alors que toi,
tu veux juste Ken pour Ken.
De baise.
Ça ne se fait pas.
Le casting qui est annoncé dans la BA et Gustave nous annonce ensuite qu'il parle le piranha.
Ah oui.
Oui, c'est vrai.
Donc en plus d'être un océanographe très reconnu, c'est le docteur Doolittle en fait. Il parle les animaux. Donc le piranha, il lui explique à ce moment-là, dans un élan romantique, que quand il se frotte,
Quand ils
frottent leur mâchoire, ça veut dire
Ken.
J'ai envie de Ken. Ça veut dire ça pour un piranha.
Il dit pas ça comme ça, il est quand même un peu plus poète. Il dit, tu vois, ça veut dire qu'ils ont envie de faire l'amour.
Mais bon, resituons cette scène dans un contexte actuel. Tu emmènes une fille sur la plage, seule, isolée, et tu lui dis ça, elle part en courant.
Non.
Peu importe la façon dont tu le dis. Non.
Moi, ça me ferait rire.
Tu crois que j'ai eu ma coloc comment?
Ah ouais, tu vas montrer ton axolote.
Ah ouais, dis pas ça parce que par contre à l'inverse, quand je vois un axolote, je vais pas toujours voir une tome, mais quand je vais voir à l'inverse, je vais voir un axolote. Alors
ah oui, là c'est plus perturbant.
En fait, c'est les axolotes avec leur petit sourire là. Je sais pas si vous avez remarqué, ils ont toujours un petit sourire.
Comme l'urètre.
On dirait un méa urinaire. Oui.
Non, mais c'est peut-être une technique de drague d'océanographe. Si jamais elle l'est aussi, tu vois. Ah, les piranhas, ils ont envie de faire l'amour et tout. C'est genre trop sexy et tout. Pour eux, tu vois.
Ouais, mais voilà. À mon avis, elle vend de l'auto et elle tire du café. Hein. Donc, on parie. Viens, on lance les paris.
En vrai, c'est trop chou. C'est vrai que c'est un peu bizarre de dire ça, mais le personnage de Gustave Carverne a l'air très touchant et je suis sûre qu'elle le prendra bien et ça la fera rire.
J'avoue que là, pour le casting, j'adore Gustave Carverne. Est-ce qu'on ferait pas allez, venez, on fait une petite pause Gustave Carverne justement pour.
Okay.
Peut-être pour l'exposer à ceux qui ne le connaissent pas. Gustave Carverne, déjà, moi je l'ai connu étant jeune dans Groland.
Évidemment.
Quand, dans Groland, l'émission qu'on bien connue sur Canal+, ce pays situé entre la frontière belge et française, bref, je ne me souviens plus exactement, mais c'est un pays imaginaire qui existe vraiment. Il a évolué là-dedans et surtout qu'il travaille avec Benoît Delépine, avec qui il a réalisé beaucoup de films qui sont géniaux, vraiment géniaux. Mammouth, là dernièrement, il a sorti son dernier film, Les Faciles Historiques, que je vais m'empresser d'aller voir. À quoi d'autre ?
I Feel Good, Saint-Amour, Le Grand Soir.
Oui. Le Grand Soir, des super films, avec, souvent réunissant des grandes gueules du cinéma français, Gérard, Albert Dupontel,
Jean Dujardin, Yolande Moreau,
Benoît Poulvorde, et des films qui sont très dénonciateurs de l'aspect social.
Oui, c'est
dramatique.
Des comédies sociales.
Une comédie sociale très noire parfois, un humour très grinçant et qui est alléchant. Enfin moi j'adore ça.
Mais pour le coup on est sur le même délire avec eux, Kerverne et Delépine, sur le même délire que quand on parlait de Talasso, Guillaume Niclou,
oui.
Avec en tout cas les acteurs quand on parlait de Houellebecq et Depardieu, bah, c'est le genre de tournage, tu vois, ils boivent bien, ils font des bonnes soirées, ils sont presque tout le temps bourrés en fait. Ils sont dans un délire de potes, bon vivant et... ouais. Se prennent pas au sérieux.
Bah, il a tourné avec eux d'ailleurs aussi, Houellebecq aussi. Dans je sais plus quel film, Near Death Experience, voilà, c'est ça.
J'avais vu une masterclass de Benoît Delépine à Mauvais Genre, le festival à Tours, et en fait, déjà lui était super stressé de parler aux gens, donc il était déjà bourré sur scène, et il parlait de ses films, Le Grand Soir et tout, à l'époque c'était ça. Et il était super cool, mais voilà, il faisait que de raconter leur beuverie qu'ils avaient sur leur tournage. En fait.
Ouais, ouais. Benoît Delépine, pour ceux qui connaissent Groland, mais sans savoir vraiment son blaze, en fait, c'est Michael Cull. Michael Cull, pour CNN International, et ben c'est lui, Benoît Delépine. Comme quoi, ils peuvent être très cons devant la caméra et très très intelligents et subtils derrière.
Mais ce que je trouve bien, c'est que là, c'est pas eux qui réalisent le film, et du coup, Gustave Kervern, de le voir dans un univers qui n'est pas l'univers Groland, puisque là, ça a l'air plus onirique, limite un film de SF en fait, hein, puisque
ouais,
là,
ouais, poses, on peut dire ça, ouais, entre
tu poses SF, les bases d'une dystopie. J'ai envie de voir comment il se débrouille dans cet univers qui n'est pas l'univers habituel dans lequel il évolue comme acteur, quoi.
Et c'est vrai qu'il a l'air touchant, et même là, la pancarte qui vient s'insérer dans la BA, qui parle d'amour en fait, et qui nous dit si vous tombiez amoureux avant la fin du monde. Vous pose cette question et moi je vous pose cette question.
Bah, ce serait bien.
Ce serait pas mal. Hein.
Bah, c'est déjà fait.
Oui, c'est déjà fait.
Oui.
La scène de fugue. La scène de fugue d'un pneu. Un pneu se fait la malle.
Il m'a fait penser à Robert, le pneu tueur de Rubber.
Ouais. Ouais, exactement. C'est exactement ce que j'avais écrit dans mon déroulé. La scène de fugue de Rubber. Donc là, ça m'a l'air d'être annonciateur d'une scène très cocasse où il perd une roue arrière en pleine nuit sur la route.
Donc, c'est très cocasse.
On n'en sait pas plus. Mais...
beaucoup de péripéties, oui, mais ça me donne l'eau à la bouche. Les cheveux roses qui pensent que l'axolote l'a reconnu, comme si l'axolote avait intégré une certaine conscience. Et ça peut peut-être rejoindre aussi le fait qu'ils n'aient pas vu beaucoup de poissons dans leur vie. Parce que va savoir aussi quelle année on est et ça fait combien de temps qu'il n'y a plus de poissons.
Exactement, c'est l'inconnu. Ouais.
C'est peut-être ça aussi qui va être très très marrant de voir. Parce qu'on en voit des poissons dans la baie, oui, en aquarium, mais c'est des tout petits. C'est vraiment des tout minuscules.
Mais elle a regardé le poisson dans les yeux, comme disait le jeune océanographe au début. Donc il y a certainement une histoire de rapport entre l'homme et le poisson. Ça va être facile.
C'est possible, on va y arriver.
Il faut toujours regarder l'axolote dans les yeux d'ailleurs.
Ouais.
Il se vexe sinon.
Tu regarderas ce soir, Clémence, l'axolote dans les yeux. Hein. Bien dans les... la BA évidemment subit ce que subit toutes les BA, des petites scènes comme ça un peu mises pêle-mêle. On voit des jeunes qui rient, qui s'amusent avec les poissons, avec leur technologie. On voit Kervern qui a l'air heureux et amoureux, qui fait le ménage en dansant. La punchline du film, là pour moi c'est la punchline du film, avec Kervern qui commence à avoir des doutes, enfin, surtout des surprises concernant sa découverte de poissons, qui est « Je n'ai jamais vu une activité synaptique pareille.
» J'adore cette réplique.
Ce qui est très drôle, c'est que quand il dit ça, ils ont mis des mini-électrodes sur la tête de l'axolote dans le bassin.
Et je te laisse raconter, du coup, Clémence, comment se termine cette BA, parce on arrive sur le côté... Bon, on était sur du SF, et là, on arrive presque dans le côté fantastique.
C'est truculent.
Que se passe-t-il ?
Je suis truculée par cette fin de BA, parce que, du coup, on voit qu'ils ont mis des petites électrodes sur la tête de l'axolote. Je n'avais jamais vu une activité synaptique pareille. Et là, son téléphone sonne, appel inconnu, il décroche, et là... Allô, Didier ? Je suis dans ta tête. Et là, on voit une image de l'axolote avec les yeux qui brillent.
À la X-Men.
C'est lui qui est en train de parler.
Et c'est d'ailleurs la dernière truc du film, c'est il parle.
Il parle. Ouais.
Et il puis a... il a un forfait orange, c'est quand même incroyable.
Et à noter quand même que l'axolote l'appelle en numéro masqué.
Ouais. Parce qu'il y a du suspense, c'est pour le suspense du film.
Aujourd'hui d'ailleurs, c'est mieux d'appeler en numéro masqué hein, si vous voulez pas choper des germes.
Mais c'est génial. Compagnie.
Des MST numériques.
La BA se termine évidemment sur le titre du film. Et la date de sortie, là, est très surprenante. Bon, à mon avis, ils ne l'ont pas modifiée, mais ça devait sortir un 1er avril. C'est dommage, hein,
parce poisson que d'avril.
Ça aurait fait tellement sens si c'était sorti un 1er avril quoi, pour un film de poisson.
Mais et ça ouais. se trouve, ça ne devait même pas sortir, c'était une fausse bande-annonce.
Putain, ce serait génial. Et après, ils ont été obligés de le faire pour tourner le film.
Parce que plus personne ne va au cinéma, ils se sont dit, merde, il faut qu'on le fasse en entier. Parce que là, il faut sauver
ils
les
ont
exploitants.
Fait un film en 4 mois, là. Et oui, il faut sauver les exploitants, il faut sauver les poissons, il faut sauver Miranda et
oui,
sauver
mais,
l'amour.
D'ailleurs, on reste avec une interrogation essentielle à la fin de cette BA, c'est que deviendra Miranda ? Pourquoi on n'a plus parlé d'elle ? Est-ce qu'il y aura une histoire d'amour entre Miranda et cet axolote ?
Bah,
de la même manière qu'il y aura une histoire d'amour
films.
Entre
faisons-nous
la fille
des
rose.
Films. Alors, le contexte, on est sur un contexte dystopique, je pense qu'on est tous d'accord. La population de poissons a totalement chuté, notamment en France, où ils ne sont plus là depuis 2 ans. Miranda est la dernière baleine qui apparemment a son propre site internet. Donc du coup, tout le monde la suit. La nouvelle streameuse, c'est Miranda. C'est
Miranda.com.
Et à mon avis, ce sera le fil rouge de toute cette histoire d'amour. Et j'espère pour Miranda qu'elle trouvera elle aussi l'amour.
Ah bah à mon avis, il y aura un montage parallèle où quand ils vont copuler pour faire un enfant, Miranda trouvera un balin.
Ouais, moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est oui. que, à mon avis, Miranda symbolise la jeune femme aux cheveux roses parce que c'est la seule femme disponible éventuellement pour que Didier puisse procréer. Et Miranda est la seule dernière baleine qui dérive vers ce village. Et l'axolote, vous me voyez venir,
ah oui.
il ressemble à une pine. Donc, il symbolise Didier avec son besoin de procréer.
D'accord, donc Didier l'axolote et Miranda la baleine.
Oui.
Enfin, et
oui,
India ouais. la baleine.
India la baleine.
Ouais, ok, ouais, bien, propre. Des théories, des films, Clément, qui te viennent à l'issue de cette BA ?
Pas plus que ce qu'on a dit, non, non.
Mais est-ce que ça te donne envie, en tout cas, de voir le film ?
Ah, par contre, ça, oui. Je suis très intrigué par cette BA, je la trouve très poétique et je me demande justement où on va aller. Est-ce qu'on va être dans la SF ? Est-ce qu'on va être dans le film social ? Est-ce qu'on va être dans le fantastique avec le poisson qui parle ? Où ça va tout ça ? Je suis très 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 enjaillé par cette BA que je trouve très différente de ce qu'on peut voir d'habitude en salle.
Oui, oui. C'est peut-être aussi le contexte qui nous donne nous la possibilité de porter nos yeux sur cette BA. C'est clair que si, à mon avis, le programme avait été respecté, on n'aurait peut-être pas vu Poisson Sexe dans tout l'amas de films normal, hein, hors Covid. Et là, pour le coup, ça permet aussi de raccrocher avec le cinéma franco-belge. Faut pas oublier que c'est aussi une production à moitié belge. Et donc, oui, ça a l'air très, très intriguant et très poétique. Toi, Kevin, ça te donne envie de le voir, ce film ?
Oui !
Oui !
Bah attends, mais déjà, le film, il s'appelle Poisson Sexe. Donc déjà, j'allais le voir. Tu vois, déjà, ça m'a convaincu tout de suite. Et puis non, mais ça a l'air d'être une comédie tendre, absurde. Et c'est un genre qui est très agréable à regarder, donc j'ai hâte de le voir.
T'as d'autres exemples de comédie tendre, absurde ?
Bien sûr.
T'as l'assaut ?
Non, mais oui, dans le
c'est
style.
C'est pas pour te piéger, mais...
Non, mais Mammouth, par exemple. Enfin,
Mammouth,
oui,
hein,
voilà.
Genre de
j'ai pas, de titres qui me viennent comme ça, mais c'est
Altra,
un truc qui me plaît.
Altra, voilà. C'était très tendre, absurde.
Pardon.
C'était très bien. Et toi, Clément, t'as envie de le voir, ce film, avec cette BA ?
Ouais, ouais, c'est très, très frais. J'aime beaucoup ce ton. J'espère juste que le film restera dans le même ton et que ça restera tout autant absurde par rapport à ce qui peut être un peu dystopique et tout, enfin, un peu futuriste, que ça n'essaiera pas de faire du Nolan et de partir aussi loin.
Le film, il est à l'envers.
Mais t'écris comment, ton ?
Je voyais
c'est pour ça que vous rigoliez là pendant que je parlais. Okay.
Mais oui, il m'a lancé un petit sourire complice.
Bah, j'aime beaucoup ce ton.
Tu le vois le jeu de mots, Romain, connexion. Bah, moi, j'ai très envie de voir ce film aussi. C'est vrai que ça a l'air très poétique, ça a l'air frais, ça va nous sortir un peu des grosses productions, là, Ténet.
Un ton frais.
Plus le ton est frais, plus ça me donne envie de le manger, hein, ce film. Et là, franchement, en plus, avec ta théorie, moi, j'ai envie de savoir si l'axolotre trouvera sa baleine.
Complètement.
On a envie de voir un axolote et une baleine se rencontrer.
Ouais. Après, vous pouvez aussi nous passer votre sextape, hein, puis on pourra voir tout ça.
Moi, je suis une baleine ? Quoi ?
J'ai compris mon erreur au moment où j'ai terminé ma phrase. Pardon.
It's too late. This moment Jackson knew.
Et donc, ça sortira non pas le 1er avril, mais le 2 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et ben voilà, hein, pour ce qui est de la BA. Nous, on a très envie de le voir, ouais. Mais qu'en pensent les gens sur les internets ?
Je sais pas, comment on pourrait savoir ?
Tu veux dire que... Une nouvelle rubrique ?
Il faudrait qu'on crée une espèce de, je sais pas, rubrique où on pourrait référencer un peu les meilleurs commentaires de toutes les personnes qui ont donné leur avis sur cette BA. Est-ce que cette rubrique existe ?
Elle existe, tout à fait.
Serait-ce le comme-ci comme-ça ?
C'est ça.
C'est le comme-ci
comme-ça. J'ai entendu une guitare.
Comme-ci, comme-ça, comme-ci, comme-ci, comme-ça. Les commentaires des internets.
Comme-ci, comme-ci, comme-ça.
Les commentaires des internets.
Poisson sexe, c'est le film de Babinet et qui a peut-être déchaîné les foules sur les internets. En tout cas, Clémence, c'est ce que tu vas nous dire tout de suite grâce au comme-ci comme-ça qui nous permet de savoir ce qu'ont pensé les gens et surtout leur attente sur le film.
Je sais pas si les gens ont des attentes, hein, mais déchaîné les foules, ils ne laissent pas indifférents, clairement. Je n'ai pas pris plein de commentaires de gens qui disent que ça a l'air d'être un film français de merde de plus parce que les gens sont fermés.
Ah,
les franchement, les gens, c'est un ton très très frais.
Bon. Elle est fière de sa blague.
Je la recycle. Mais voilà, et il y a aussi eu beaucoup de commentaires sur le fait que ça devait sortir le 1er avril au début. Donc la principale réaction, c'était « Oh, film de poisson, 1er avril !» Comme vous. Bon.
Ah, tu voudrais dire qu'on est comme la norme, c'est ça ?
Très original. Mm-hmm. Sinon, quelques petits commentaires sympas. Un petit commentaire de Fanart qui dit « C'est cool, enfin un développement sur le littoral groenlandais. Son charme, ses poissons qui se tirent la gueule, ses villages au bord de mer sans femmes et ses axolotes qui lisent dans les pensées. Gustave va-t-il trouver l'amour ? Rien n'est moins sûr. » Donc, quelqu'un d'assez enjaillé.
Assez enjaillé.
Mais alors que je crois que le Groland n'est pas du tout côtier. il me semble que Groland est en plein centre de l'Europe. C'est donc, vrai. Tu pourras
est-ce
dire à Fanart qu'avant de mettre des commentaires sur Internet, ce serait bien qu'il se renseigne sur la géographie. Merci.
Oh, le relou, quoi.
Ouais, sinon, on a Spirou Fantasio qui dit... J'adore
il
les...
Il peut ne rien dire, c'est déjà bien.
Spirou Fantasio dit « C'est un film bienveillant, c'est beau, je vais faire pipi.
» Mais les gens sur Internet...
J'adore Spirou Fantasio.
Mais c'est vrai que quand on voit beaucoup d'eau, ça donne envie de faire pipi. Bon, alors il y a Claire Carlier, très sérieuse, qui dit « Oui, j'ai vu le trailer, pas mal, mais dites, l'axolote n'est pas un poisson, c'est un genre urodèle, autrement dit une salamandre. »
Ah bah je me suis trompé, c'est pas un amphibien.
Ouais. Ok, d'accord, Claire, bah, merci.
Merci pour l'info.
Tu peux juste nous répéter pour l'info, pour bien qu'on retienne.
Un urodèle, un genre urodèle, comme la salamandre.
C'est pas un urologue alors, l'axolote.
Si t'as un problème avec ton axolote, tu peux consulter un urologue.
Ok.
Marc Ayen est un peu pensé comme toi, Romain, comme nous tous, en voyant cette bande-annonce, c'est-à-dire que encore un film français où on ne comprend rien à ce que les acteurs disent, tellement ils marmonnent, va falloir doubler les films français pour comprendre.
Ah bah, je dois articuler.
Bon, c'est un peu exagéré, c'est pas tout le temps, c'est quand les gens sont un peu circonspects, tu vois, comme nous dans la vraie vie.
C'est très français.
Et sinon, j'ai trouvé un tweet de Yobou qui m'a trop touché.
Yodou.
Vous ne savez pas qui est Yobou ? Bah, moi non plus, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien entre lui
et
Olivier Babinet. Parce qu'il a tweeté « Purée, je viens de voir la BA de Poisson Sexe avec deux smileys qui pleurent. Et je suis grave émue et fière d'Olivier, wesh. Depuis ma quatrième, il est sur son projet et je suis grave heureux de l'avoir aidé et avoir participé. »
Excellent. Wow.
Bah, il paraît qu'ils étaient comme deux aimants en quatrième.
C'est-à-dire que depuis la quatrième, le mec, il a un projet, c'est Poisson Sexe. Et ça, c'est beau.
Non, mais il doit le connaître, ouais.
C'est... Casser les couilles à tout le monde. Je vais faire un film, les gars, je vais l'appeler Poisson Sexe. Arrête avec tes conneries, Olivier.
Fini déjà ton théorème de Pythagore.
Bon, il m'en reste deux petits derniers. VBMN qui dit « Ça a l'air giga drôle, putain, ça change de Christian Clavier.
» C'est vrai,
VBGB. On sait tous ce qu'il veut dire.
Oui, oui, je suis d'accord avec lui. Oui. Tout ce qui n'a pas Christian Clavier est possiblement un bon film.
Et enfin, pour bien conclure, Gaëtan Dragon qui dit « Désolé, mais dès que j'ai vu le titre, j'ai fait... Je veux que tout le monde bouge ses fesses, que les femmes oublient leur complexe, poisson sexe, désolé. » Il termine son commentaire par désolé.
Quelqu'un qui pourrait écouter Feta Béa et qui, à mon avis, pourrait s'abonner facilement.
Oui, on va lui répondre.
On va lui répondre.
En fait, il y a plusieurs gens qui ont tweeté et commenté là-dessus.
Tu veux dire qu'on n'est pas originaux,
c'est
ça ?
Tellement populaire.
C'est ça que tu dis indirectement, Clémence ?
Non, ça veut dire qu'on a les mêmes références que les gens qui regardent cette bande-annonce, ce qui veut dire qu'on va avoir des écoutes.
Chouette ! Et mettez 5 étoiles sur iTunes.
S'il vous plaît, poisson sexe. Et bien, merci Clémence, nous on a envie de le voir. On a envie de le voir, ce film Poisson Sexe, en un seul mot.
C'est marrant. Le titre, vous en pensez quoi, vous ?
Poisson Sexe ?
C'est un peu long.
J'en ai marre de ce lancement.
C'est un peu ouf le titre. Un peu trop évident. Moi, j'aurais pas appelé ça comme ça, c'est sûr.
Et bien, on va savoir comment tu l'aurais appelé parce qu'on ouvre tout de suite la rubrique Fais ton titre.
Oh !
Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
La rubrique Fais ton titre qui nous permet de renommer le film de la semaine, ici Poisson Sexe, sauf que ce titre ne nous convient pas forcément. Avez-vous travaillé vos nouveaux titres, les amis ?
Bien sûr.
C'est pas comme si on avait la pression sur les épaules.
Oh bah vas-y, bah, dis que je suis un tyran tant qu'on y est. Allez Clémence, tout de suite ton titre.
J'en ai deux.
Wow.
Je ne me laisse pas impressionner comme ça. Alors,
quelle femme ?
J'en ai un assez technique qui serait WTF.
What the
entre parenthèses, what the fish.
Ouh.
Pas mal.
Ça c'est beau ça.
Ouh, j'aime bien.
Merci. Et l'autre, il me fait trop rire vu ce qu'on a dit, c'est Axel Hot.
Ah, ça j'aime beaucoup.
Vachement bien.
Ça j'aime beaucoup. Très très bon, Axel Hot.
Axel Hot.
Ah, toi aussi, tu veux des poissons chauds dans ta région ?
Envoie arrête, 8-22-22.
Bon, et vous ?
Kevin, des titres ?
J'ai plusieurs titres, mais ouais, c'est pas au niveau de ce qu'on vient d'entendre. J'en ai un, c'est Bulle Caqué.
J'adore.
Avec en catchphrase, ça sent la moule.
Oh putain, j'ai la même. Putain, j'ai la même catchphrase presque.
Oh, la partage si tu veux.
Oh là
c'est d'une finesse.
Après, j'ai un titre qui est beaucoup plus fin, qui s'appelle D'amour et d'eau fraîche. Ouais, ça c'est mignon. Et j'en ai un qui s'appelle Si Sex and Sum.
Ah,
parce qu'il est un peu dépressif.
Parce qu'il a un peu le seum de pas avoir d'enfant.
Il
y a des bons titres.
Je l'aime bien en catchphrase aussi, si Sex and Sum.
Ah, ça peut être pas mal en catchphrase.
Ouais. Très très bien.
Vous faites votre tambouille.
Avec Axolot, ça irait bien.
Là, vous me faites plaisir quand vous trouvez des trucs comme ça. J'aime beaucoup.
D'accord.
J'aime beaucoup. Vous êtes
mes beaux poissons. J'avais que t'allais le dire.
J'y vais. Bon, moi j'en ai un comme ça.
Attends, excuse-moi, qui t'a demandé de parler ?
J'ai dit j'y vais et je l'ai pris direct à l'initiative. Comme ça parle d'un océanographe qui veut pécho, j'ai pensé à Océanique.
C'est pas mal ça aussi.
Océanique.
Il y a tellement de bons jeux de mots à faire.
Océanique. Et sinon, j'en avais un plus poétique, c'est L'amour à la plage.
C'est l'amour à la plage.
Aou, tcha tcha tcha.
Aou, tcha tcha tcha.
Et ma catchphrase, c'était ça sent la marée. Donc.
Oh, ce qui rejoint un peu.
C'est un peu plus fin que ça sent la marée.
Bravo, bravo, vous avez des très beaux titres.
Et toi, Romain ?
J'aurais appelé ça Tribal Fish.
J'aime pas.
Non, en vrai, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de.
Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Hein.
J'ai pas eu le temps de prendre
trop
les.
De fiche.
Trop de
balle fish.
Trop de
balle fish.
Trop de balles qui
trop de balles qui non là ça va trop dans la référence.
Moi je retiens Axolot et le tien c'était quoi le
Bulle Caqué.
Il y a Bulle Caqué.
Bulle Caqué et celui de la fin.
Si Sex and Sum.
Ah, mais est-ce que Axolot irait pas bien avec la catchphrase Si Sex and Sum?
Toi tu vends un peu ta tambouille depuis deux émissions.
Ouais j'avoue
non, mais j'avoue que la catchphrase est vraiment bien. Elle est aussi Sex and Sum. Et après, on te Bulle Caqué.
On rappelle que l'enjeu de celui qui gagne, c'est de dire qui va résumer Ténet. Oui. Attention, c'est un enjeu.
C'est vrai, c'est un gros enjeu.
Tu annonces, ouais,
tu annonces quelque chose, Clément, c'est oui, parce que je ne l'ai pas encore annoncé aux éditrices et aux auditrices. C'est que nouveauté dans Fait ABA, c'est que celui qui remporte le fait en titre a le droit de désigner qui résumera le film qui passe en match retour. Et là, en plus, aujourd'hui, v'là la tannée qui était nette.
Ah,
déjà, on sait que Clément et moi, on est dead,
on est
sélectionnable. Et Kevin aussi, il est. Parce que c'est Clément qui va le prendre pour Axel Hot, qui fait beaucoup sens. Du coup, pour ce film, étant donné qu'on a pas mal parlé de pin pendant cette DA, du coup, Clémence qui veut placer sa pin, du coup, Axel Hot,
la catchphrase
de Kevin, Si Sex and Sum, et nous voilà tous trois.
Ça veut dire que comme Kevin a la catchphrase, je peux annoncer dès maintenant qu'il ne devra pas résumer Ténèbres.
Voilà. Moi, je suis immunisé.
Ça va être toi ou moi, Romain.
Oh putain, j'ai peur.
Ah, putain.
Ok, très bien. Alors, Poisson Sexe devient Axel Hot. Et Si Sex and Sum devient la nouvelle catchphrase de ce film. Je crois qu'il n'y en avait même pas en plus sur l'affiche.
Ouais, bah, ça leur fera du bien.
On invente des catchphrases.
Donc voilà. Et ben bravo Clémence, deux fois de suite. Ouais. Pour l'instant, tu es la
Quel
seule.
Quel talent.
Saison 2, elle démarre, mais
ouais,
comme une.
Ouais, ouais. Deux
bille
épisodes
en tête.
Et deux victoires. Bravo à toi et bravo à ton coloc pour sa catchphrase. Vous êtes beaux, mes poissons. Vous êtes beau et maintenant j'ai peur parce qu'on va ouvrir le match retour de la semaine qui est Ténet et on a beaucoup de choses à vous dire. C'est parti.
Ça te fait mal quand on te tire dessus ? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant ? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui ? T'intéresses à quoi, toi ? Est-ce que t'en as de la considération ?
Tu déconnes, non ? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques. T'es nul !
Match retour de conséquences pour aujourd'hui, car nous allons parler de Tenet, le grand film de l'été qui était annoncé comme le sauveur du cinéma. Mais est-ce qu'il va vraiment sauver le cinéma ? En tout cas, je voulais déjà spoiler, nos avis n'iront pas dans ce sens-là, car ça a été la déception en voyant ce film. Mais avant toute chose, j'aimerais vous résumer l'histoire que nous avions imaginée en décortiquant cette BA dans tous les sens dans l'épisode précédent. Alors, c'est parti. Dans un monde où les bateaux vont à l'envers et où les éoliennes font du vent grâce à l'électricité, un mot, un seul, permet de pénétrer dans l'univers des clubs échangistes. Tenet. Dans ce monde, un homme en colère casse des assiettes et des gueules dans les cuisines. Cet homme, c'est Jean-David. Et Jean-David est très inquiet. Pire même, il est dans l'expectative. En effet, il est atteint de Tom Cruiseite, ce qui l'empêche de faire les choses simplement. Par exemple, se rendre au 37e étage en élastique au lieu de prendre les escaliers comme tout le monde. Mais Jean-David n'est pas au bout de ses surprises car à Skip, une troisième guerre mondiale pire que l'apocalypse n'est pas loin. Il rend donc visite à Fleur de la Cour qui lui demandera de remonter une montre et de remplir des douilles. Il faut faire vite, les méchants russes sont chauds. Mais heureusement, Jean-David embauche Cédric Diggory qui a la particularité de faire revenir à l'endroit les choses qui étaient à l'envers. Ensemble, ils devront vaincre Caressator, et ce grâce à Tenet, un truc chelou qui répare et remplace et qui pourrait permettre de sauver le monde, mais aussi qui rendrait à la France son étoile perdue face à l'Italie en 2006.
Très voilà. Important.
Ceci était l'histoire que nous nous étions imaginée, hein, plus ou moins, dans notre épisode précédent qui était tout retourné. Merci le calculateur d'ailleurs hein, pour tout ça. Tu nous as bien foutu la pagaille dans notre épisode. J'espère que les gens ont bien suivi.
Il est éteint, ça sert à rien de parler.
Il est jamais éteint. Regarde,
désolé.
Tu vois, oh, merde.
Éteins-toi s'il te plaît, le calculateur.
Tu vous.
Merci.
En fait, allumé.
Tapis dans l'ombre, tu sais.
Il en fait, ce bruit qu'il fait depuis 2 saisons et donc 40 épisodes, c'est juste pour se mettre en veille. En fait, donc il n'est pas éteint.
Ah, d'accord, mais c'est quoi ça, bah, on l'éteindra vraiment aujourd'hui.
C'est comme un Furby.
Voilà, ça c'était l'histoire qu'on s'était imaginé. Du coup, maintenant il va falloir résumer le vrai film. Et qui va le faire ? Bah, du coup, c'est Clémence qui va décider. Clément et moi. Qui doit résumer ce film ? Clémence.
Ah, eh bien, mon Romain, ouais, mon beau Romain,
ah, mon beau poisson,
oh, mon Dieu,
mon beau wow. Animateur.
Oh là là, bon.
Tu n'as jamais résumé jusqu'à présent.
Si, j'ai résumé Ad Astra dans l'épisode 20.
C'était aussi
bon, simple. Bon, eh ben, ça n'empêche, tu vas résumer tes nets.
Ok, waouh, c'était pas très simple dans l'épisode 20. Alors, tes nets, waouh, putain, waouh, tes nets, je commence par la fin ou le début ?
Le début.
Écoute,
il faut que les gens puissent comprendre. Après, je pense qu'il faut pas trop que tu spoiles, mais tu peux pitcher.
Hein. Bah, je pense qu'on va spoiler quand
ouais,
même. Non
ouais,
donc,
ça va être dur de pas spoiler. Enfin,
spoiler
pas, je sais pas.
Spoiler alert.
Je vais essayer de pas spoiler, mais ça va être dur. Donc, si vous avez peur, éteignez. Donc, ok, Tenet. Alors, l'histoire, elle commence sur. En fait, le film, il s'ouvre sur le fameux opéra, La Repo, qui, là, il y a des mecs qui rentrent, ils commencent à foutre le zbeul. Jean-David, il est dans un camion, il sort, clac, 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 clac. Et après, il se fait attraper par des gars qui lui disent « Ouais, il y a le Tenet. » Et après, j'ai pas compris.
C'est un bon résumé.
Essaye plus global.
Et c'était ensuite, plus... en fait, Jean-David, il va être embauché par une espèce d'organisation secrète pour essayer justement de démonter ce plan de Troisième Guerre mondiale qui pourrait arriver très, très vite car on a déjà des indices du futur grâce à des éléments, des objets qui en viennent et qui ont été inversés. Alors pour à ce moment-là du film, déjà j'étais déjà en train de froncer les sourcils, mais bon, et qui ont été inversés et du coup qui permettent de refaire l'action dans l'autre sens. Donc du coup, ce qui permet de déterminer si ces éléments viennent du futur. Et grâce à ça, ils vont essayer de remonter des pistes. Et lui de personne en personne, il va remonter, il va se retrouver dans une espèce de truc d'art. Ils vont faire crasher un avion pour arriver enfin au grand méchant qui est le Russe, joué par Kenneth Branagh. Et à partir de là, en fait, ils comprennent qu'il y a une espèce de machine qu'ils appellent le tourniquet qui permet d'inverser les choses. Et donc, du coup, il y a des gens qui peuvent remonter le temps, mais du coup, il y en a qui vont à l'endroit, il y en a qui vont à l'envers. Et ce qui permet, selon... J'ai pas tout compris en fait.
Oh, c'est déjà pas mal.
Et à la fin, ça finit bien.
C'est vrai.
Donc et puis voilà, et puis ben forcément Nolan va encore nous emmener dans ces sphères du temps démontées et remontées, et ça fait des trucs très beaux à l'image, et voilà quoi.
Ok.
Je sais pas si
bon,
j'ai
bah,
bien résumé.
Laisse...
Là,
non, ouais, c'est bon. Maintenant, je te laisse continuer et enchaîner sur le do you pas do.
C'est ton résumé.
Là,
c'est le tien.
J'ai utilisé toutes mes cartouches. Là,
non, c'était pas mal.
Du coup, do you pas do you.
C'était une douille.
C'était
pas une douille.
Le douille ou pas douille, la rubrique qui nous permet de savoir si la BA que nous avons vue dans notre épisode précédent nous a vendu le film comme il l'est vraiment, ou bien nos attentes étaient peut-être trop loin. En gros, est-ce que c'était fidèle ou pas ? Clément, douille ou pas douille ?
Alors, je dirais demi-douille, dans le sens où j'avais déjà, en visionnant la BA, peur d'être déçu. Je la trouvais trop hollywoodienne et un peu trop cliché, James Bond et tout. Et effectivement, j'ai été déçu. Donc, dans ce sens, la BA était fidèle au film. Mais je dis demi-douille parce que c'est une douille pour moi d'être déçu par un film de Christopher Nolan. Je suis un gros fanboy de lui. Et c'est la première fois que je sors de la salle, non seulement mitigé, mais en fait carrément déçu, quoi.
Deception. Clémence, douille ou pas douille ?
Moi, c'est une ultra douille parce que, de base, je ne suis pas fan de Nolan, je l'avais dit quand on avait fait la BA, et même en n'étant pas fan de Nolan, je m'attendais quand même à un film à la Nolan qui, certes, ne toucherait pas ma sensibilité, mais resterait un bon film comme je le perçois sur d'autres que je n'aime pas, comme Inception. Là, il se trouve qu'en plus, je vois que ce film n'est pas bon. Ça n'a rien de comparable pour moi avec ses films précédents, c'est quand même bien en dessous. Donc du coup, je m'attendais à rien, mais en plus, je suis quand même encore plus déçu.
Waouh, wow, voilà. Méga douille. Kevin rigole.
J'adore cette
phrase. Je m'attendais à rien, j'étais déçu.
C'est parce que je suis fan de Malcolm.
Ouais.
douille ou pas douille pour moi ?
Oui.
C'est compliqué comme question.
Tu ne couperas pas.
Je dirais que c'est une douille quand même, parce que moi j'aime bien Nolan, mais après je suis pas un fanboy, parce que c'est-à-dire que moi je trouve que ce gars-là il a quand même des défauts que moi je vois. Après ça me cache pas les films en général, c'est juste que j'en ai conscience, et moi je m'attendais à voir un film avec ses défauts. Le problème de Tenet, c'est qu'il n'y a presque à 80% que ses défauts, quoi.
Aïe, aïe, aïe.
Et donc c'est plutôt une douille.
Aïe, aïe,
et toi,
aïe, aïe.
Romain?
Bon, comment commencer la saison ? Eh ben, commençons la saison sur une méga douille, une méga déception, une yeudou grosse, une grosse yeudou. Je me suis pris vraiment une grosse douille parce que ben cette BA, je me l'étais bouffée plusieurs fois parce que je suis comme toi, Clément, un gros fanboy de Nolan. Sur toute sa filmographie, il y avait aucun film qui ne m'avait déçu. Alors oui, il y en a certains que j'ai un peu moins aimé que d'autres, mais à chaque fois, j'ai trouvé ces films très très bons. Et c'est la première fois que je sors d'une salle. Après un film de Nolan où je me dis non, en fait pas fan, et à ce moment là c'est la grosse douille, quoi. Donc voilà, petit cœur brisé, et puis on va essayer de savoir pourquoi, en fait, pourquoi.
Et à ce moment là qu'est-ce qui se passe dans ta vie, comment, dans quel état d'esprit es-tu, que fais-tu, est-ce que tu prends le métro tout
j'ai
de suite, est-ce que tu vas
j'ai,
te
j'ai quitté
piquer
ma femme, j'ai quitté mon boulot, je suis devenu alcoolique, j'erre sur les autoroutes dans la recherche de ma vie.
D'accord.
Plus rien ne va. Le noir m'a envahi.
Wow.
Hello darkness, my old friend. Pourquoi avons-nous ressenti cette douille au plus profond de nos cœurs ? On va vous le dire tout de suite avec nos avis. Et Clément, j'ai envie de te lancer parce que okay, tu vas être un peu notre pierre conductrice.
La pierre conductrice.
J'ai cru notre pierre tombale.
Toi, t'es la pierre qui conduit.
Ça dit pas pierre conductrice.
Un fil conducteur ou
une pierre qui roule.
Pierre qui
je
roule.
Sais ce qu'il y a avec
pierre. Non, mais je vais commencer par ce que j'ai aimé parce que malheureusement ça pèse pas lourd. Je trouve que le concept de l'inversion temporelle, donc qui donne lieu à 4-5 séquences vraiment stylées, ça te scotche à ton siège. Je pèse mes mots, c'est-à-dire que j'ai presque envie de dire qu'il faut aller voir le film pour ces séquences, parce que c'est vraiment du jamais vu, je trouve. C'est incroyablement bien mis en scène. Je me demande comment il a réussi à tourner ces séquences. C'est beaucoup de mise en place. Enfin, c'est, surtout qu'il n'utilise pas trop d'effets spéciaux numériques. Donc je me doute que ça a dû être une bonne galère à tourner. Ces séquences sont ultra jouissives, super fun, tout ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'il y en a 4-5 dans le film. Et que sur 2h30, 4-5 séquences, ça pèse pas lourd. Donc je rentre déjà dans les défauts. Mais... Et après, l'autre bon point, c'est que je trouve que les acteurs sont bons. Et franchement, c'est une vraie performance parce que les personnages sont vraiment creux et ils arrivent quand même à les rendre un tout petit peu attachants. Alors le principal, John David Washington, il a quasiment rien à défendre, donc c'est très dur, mais il est quand même charismatique. Pattinson est très bien, alors que pareil, il n'y a pas grand chose à défendre, mais tu t'y attaches quand même un tout petit peu plus. Kenneth Branagh, bah, il joue un russe, donc il fait ce qu'il peut, mais je m'attendais à beaucoup plus catastrophique que ça. Donc voilà, je trouve les acteurs vraiment pas mal et le concept d'inversion temporelle bien exploité, bien mis en scène en termes visuels. Voilà. Après, je ne sais pas si je rentre dans ce que j'ai pas aimé, si vous voulez rebondir, je ne sais pas.
Si je peux rebondir un peu, comme quoi, hein, tout est très subjectif, même concernant le jeu des acteurs, moi, je n'ai pas trouvé ça terrible. Mais écoute, c'est peut-être parce que tout le décor autour n'était pas non plus terrible que ça m'a donné une mauvaise vision de leur jeu, mais je n'ai pas été transcendé par leur jeu. Quoi.
Ça reste des bons acteurs, mais en fait, on est frustré parce qu'on sent qu'ils ont des personnages pas écrits à leur mesure et qu'ils sont obligés de jouer des choses qu'on a déjà vues 1000 fois.
Clairement. Et peut-être que justement, Clément va nous éclairer nos lanternes par rapport à ça. Est-ce que vraiment le contexte pour les acteurs était bon ou pas?
C'est un des soucis, mais je trouve que le principal souci du film, c'est que c'est un film high concept, comme souvent chez Nolan, mais là c'est seulement un high concept et je trouve que ça finit par tourner à vide. C'est-à-dire que là où Le Prestige, Inception ou Interstellar ou même Dunkerque parvenaient à dépasser le concept pour amener de l'émotion et de vrais enjeux aux personnages, là je trouve qu'il n'y arrive pas et que c'est centré que sur le concept et qu'en fait son concept il est quand même pas ouf. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu peux retourner dans le temps. Bon, c'est un truc qui c'est pas non plus un truc absolument jamais vu en termes de scénario. Visuellement, je trouve que c'est très bien exploité, mais en termes de scénario, c'est quand même un truc que tu peux voir dans Dark notamment, dans plusieurs
retour,
trucs comme ça.
Retour vers le futur.
Et je trouve que du coup, il s'est focalisé que sur le concept et ça me surprend que ça fasse des années qu'il a ça en tête parce que je trouve que ça fait un peu vite écrit comme film. Quoi. Les dialogues sont quand même vraiment pas terribles et les personnages sont des personnages fonction. C'est-à-dire que le protagoniste s'appelle le protagoniste, mais pour de vrai dans le film. Et tu comprends pas en fait pourquoi il a le droit d'avoir un nom, un prénom. Enfin,
c'est qui le protagoniste?
C'est John David Washington.
Il a pas un nom?
Non, il s'appelle le protagoniste.
Ah ouais,
il
le dit plusieurs fois, c'est un genre de running gag, de choses qui revient, c'est dire tu es le protagoniste,
crédité,
je suis le protagoniste.
Il est crédité The Protagoniste. Après, t'as Pattinson qui joue. En fait, il représente que des archétypes. Donc Pattinson, c'est l'acolyte qui en gros va te sortir.
Il s'appelle l'acolyte d'ailleurs.
Non, c'est pas l'acolyte. Non, il a un prénom, heureusement, mais il va te sortir de toutes les merdes dans lesquelles tu t'es embarqué, donc voilà, c'est le mec des merdards qui te sort de tout. Il y a la femme fatale, bon, qui est souvent présente chez Nolan, mais là qui est quand même particulièrement creuse. Le méchant terroriste russe que même dans les James Bond ils osent plus faire tellement il est méchant et russe. Et je trouve que ces personnages sont creux et que tu peux pas t'y attacher en fait. C'est difficile d'avoir des enjeux par rapport à ces personnages qui sont des fonctions, quoi.
Ouais.
Clémence.
Je voudrais donner mon avis en rebondissant sur deux points que tu as donnés. C'est effectivement le concept du film. Tout le monde parle de mindfuck, de gros mindfuck, jamais vu. Et du coup, je suis d'accord avec toi, Clément, je trouve que c'est pas si exceptionnel que ça sur l'ensemble du film. Parce que pour moi, par exemple, le mindfuck, il se situe que ponctuellement, par exemple, au moment central où on voit qu'ils vont inverser. Et donc, la scène qui se repasse à Oslo, où on voit le héros qui se bat contre lui-même, ça, ok, c'est un mindfuck, ok. Mais ça dure le temps d'une scène. Et pour moi, tout le reste qui est après, c'est pas du mindfuck, en fait. T'as intégré le truc et il n'y a rien qui te retourne le cerveau, globalement.
Quand même.
Non, je trouve pas. Et justement, la structure en elle-même, elle est pas mauvaise. Pour le coup, c'est assez plaisant. Mais là où j'hallucine, c'est qu'on dise que c'est révolutionnaire. Parce que comme tu dis, ça a déjà été fait dans des séries, dans des films. Pour moi, un film comme Premier Contact le fait bien mieux. Et a une vraie complexité, et une complexité qui donne du plaisir, qui donne envie de revoir, pas parce que t'as pas compris plein de trucs, mais parce que t'as envie de revoir avec les yeux de celui qui a été mindfucké et qui a compris à la fin. Pour moi, c'est ça le vrai mindfuck. Et il n'y a pas ça dans Tenet. Et par ailleurs, je suis complètement d'accord avec toi sur les personnages. Pour moi, c'est vraiment un des plus gros problèmes de Nolan en général. Et je trouve que là, c'est vraiment à son paroxysme, le manque de psychologie des personnages. Et pour le coup, là, ils vont vraiment dans le cliché et des codes de James Bond, mais mauvais. Mais si seulement il y avait que ça, pour moi, c'est en plus, à côté de ça, le scénario général, les péripéties, la manière dont elles sont écrites et expliquées. Parce que c'est vrai que ça fait très James Bond, d'étape en étape, chercher des indices, essayer de résoudre telle petite chose comme un tableau pour la fille, pour ensuite pouvoir approcher le mania russe et tout. Tout ça, c'est absolument pas clair, mais inutilement. Ça, c'est tout ce qui laisse penser que le film est compliqué et que c'est lié à son concept général, alors que pas du tout, c'est juste des codes de James Bond à la noix et qui sont très très mal expliqués. Donc, ouais, vraiment, voilà, l'écriture pêche énormément.
Ouais, non, mais moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Alors, en fait, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je pense que vraiment, le vrai problème de ce film-là, c'est qu'en écriture, enfin, l'écriture est vraiment à côté de la plaque. Moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai vu plein de critiques de gens qui disaient « Ouais, le film est compliqué de fou, il faut que je le voie deux fois pour le comprendre. » T'as pas besoin de voir deux fois un film pour le comprendre normalement. Si tu veux voir un deuxième visionnage, c'est pour avoir des détails que t'as pas vu une fois que tu l'as compris. Ouais. C'est voilà, sixième sens.
Ou
ah bah tiens.
Twist, ou s'il y a un voilà. twist de fin, de mieux comprendre
voilà.
en fait.
Sixième
tous
sens,
s'il y a
un twist, ouais. bah je vais le revoir. Ah bah d'accord, c'était bien géré. Là, le problème, c'est que le concept, il a l'air compliqué alors qu'il l'est pas. C'est tout con, hein, c'est hop. Il y en a qui vont en avant dans le temps, il y en a qui vont en arrière dans le temps, ça s'arrête là. Quoi. Le concept, il n'est pas complexe. Ce qui est compliqué, c'est que la narration, elle est brouillonne. C'est même pas qu'elle est compliquée, c'est que c'est brouillon. C'est que ça n'a pas de sens. C'est que tous les persos, au-delà du fait qu'ils, malheureusement, n'aient pas de personnalité, donc tu n'as pas d'attache émotionnelle avec eux, tous les dialogues, c'est de l'exposition. Ouais. Tu revois le film, c'est « Ah ouais, maintenant je suis machin. Ah oui, bah, tu parles de cette inversion temporelle de machin avec le proton de professeur Bidule. Oui, effectivement. Et puis moi, j'ai aussi un tableau. » Sauf qu'il te met ça tout à la suite, en mode bah, « Bam, 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 c'est compliqué mon film. Regarde, il y a plein d'informations. » Non, ça devrait pas être compliqué comme ça. Tu devrais... Enfin, quand tu fais un film de SF avec du voyage dans le temps en plus, quoi, tu simplifies... Enfin, même pas tu simplifies. Tu vulgarises pour que le spectateur puisse comprendre. L'armée de douze singes, en soi, c'est compliqué. Tu regardes le film, tu comprends tout. Parce que c'est clairement raconté. Tu parlais de Dark, la série, ça parle de voyage dans le temps. C'est limpide.
Mais même Retour vers le futur. Il n'y a pas de paradoxes qui sont expliqués et que tout le monde a assimilé très rapidement.
Et puis en plus, moi, le parallèle avec Dark, je trouve qu'il est intéressant parce que Dark, c'est vraiment la série qui est hyper poussée sur le voyage dans le temps et qui est bourrée de paradoxes parce que c'est du voyage dans le temps. Mais parce que les personnages sont écrits, bah c'est paradoxe, tu les acceptes. Alors que
excuse-moi, dans Dark, il y a une trentaine de personnages en plus que dans Ténèbres.
Oui,
ah
oui,
plus.
C'est clair.
C'est ça qu'il faut dire.
Non, mais c'est vraiment.
Les familles et tout.
C'est vraiment pour l'écriture de l'histoire et puis c'est dans la dramaturgie, quoi. C'est-à-dire que comme les personnages n'existent pas et qu'ils essaient de t'embrouiller en disant regarde mon concept, il est extrêmement intelligent, j'ai fait un James Bond de fou, etc., que. En fait, tu t'en branles, le fait qu'ils vont en avant dans le temps, qu'ils vont derrière dans le temps, tu t'en tapes. Et moi, j'ai aucune implication émotionnelle. Mais après, je suis d'accord, il y a des money shots, il y a des séquences qui sont super impressionnantes. Mais j'aurais préféré qu'elles soient à des moments où dramatiquement, ça a de l'impact. Quoi.
En fait, on dirait que Nolan, il s'est créé lui-même son propre cahier des charges. Et maintenant qu'il est obligé de cocher les cases de trucs. Il faut que dans mes films, il y ait un tel type de personnage. Il faut qu'il y ait la femme fatale, un peu tout ce que tu as dit, Clément. Donc ça, c'est bon, c'est checké. Il faut qu'il y ait du mindfuck, ok, c'est checké. Et puis, il faut que je mette des dialogues sans queue ni tête. Même si, enfin, sans queue ni tête, si, ils ont un queue et une tête, ces dialogues. Mais comment dire ? En fait, moi...
Y a-t-il des queues de poisson ? C'est ça la question.
Et des têtes de poisson, c'est bon aussi.
En fait, le truc dans ce film, c'est que contrairement, en fait... à Inception, où j'avais les yeux grands ouverts parce que j'étais complètement étonné de ce que je voyais. C'était spectaculaire, c'était vertigineux. Dans Interstellar, j'avais les yeux pleins de larmes. Ici, j'avais les yeux froncés, en fait. J'avais les sourcils froncés tout le long du film parce que je me disais « Mais mon cerveau, en fait, tu me demandes à mon cerveau de travailler à 100%, quoi. » Sauf que ça m'a totalement sorti du truc parce que je ne faisais que passer mon temps à réfléchir à ce que j'étais en train de lire, en train de voir... C'était beaucoup trop d'informations, beaucoup trop brouillon, comme tu l'as dit, Kevin. Et je me suis totalement perdu, quoi. Il y a toute une première partie de film où on n'est même pas dans... Je ne sais même pas si on peut dire le Ténèbres, parce qu'au final, je ne sais même pas ce que c'est que le Ténèbres.
C'est ça,
en fait,
le pire, c'est que moi, je suis incapable de t'expliquer ce que c'est.
C'est quoi le Ténèbres ? Je ne sais pas.
Je crois que c'est le concept.
Je ne sais toujours pas, mais bref, il y a toute une première partie de film avant qu'il arrive dans la partie inversée, où là, effectivement, il commence à y avoir des money shots très, très cool. On voit des oiseaux voler à l'envers, on voit l'eau partir à l'envers, les voitures à l'envers, les bateaux, la séquence sur l'autoroute. Évidemment, il y a des choses très belles et qu'on attendait, nous, en ayant vu la BA, qu'on attendait à voir dans le film. Sauf que ça arrive très tard, quoi. Moi, entre temps, gars, tu m'as perdu. Et j'ai passé tout mon temps à essayer de recoller des morceaux pour au final en sortir en disant « Mais qu'est-ce que quoi ?» Et donc oui, j'arrive à relier un peu l'histoire et tout. Et la preuve, c'est que mon résumé a été... j'ai pas fait exprès, hein. J'ai pas joué à la Bruno, là. Vraiment, je me suis vraiment perdu dans mon résumé parce que je me suis perdu dans le film, quoi. Mmh. Et j'attendais pas ça de Nolan. Et la chose qui m'énerve aussi le plus, c'est que j'ai l'impression que Nolan a une nouvelle case à cocher sur ses films. C'est que mes films existent après le film. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, dès qu'un film de Nolan y sort, il a pris cette habitude de voir des théories tomber sur Internet avec des frises temporelles qui t'expliquent que là, en fait, il est à telle époque, machin, nanan, et ce qui fait qu'il se croise pas dans l'action et tout. Le gars s'est tellement embourbé dans cette espèce de délire que là, dans Tenet, ça ne fait absolument pas sens, quoi. Je suis parti voir, hein, après, les théories qui existent déjà sur Internet et
oui,
tout par rapport au film.
Il y en a plein.
C'est effectivement très intéressant, mais mets-moi ça dans un film, en fait. que je sois pas obligé d'aller revoir ton film en ayant appris ça d'internet. C'est, il est là le problème, c'est que si t'arrives pas à m'expliquer les choses dans ton film et que c'est internet qui est obligé de me l'expliquer, il y a un problème. Alors c'est peut-être pour ça en fait, peut-être le Tenet c'est juste l'internet. Donc
il y a presque un questionnement à se poser là-dessus, c'est dans quelle mesure les studios ont influencé là-dessus, parce que ce que tu décris en fait, que ce soit la déception dans le genre dans lequel ils s'enfoncent avec des cases à cocher pour les personnages et tout, ou que ce soit le fait que effectivement le film fasse autant discuter sur internet et que ce soit un argument en fait pour aller le voir ou le revoir, bah, dans quelle mesure c'est pas instrumentalisé entre guillemets et quelque chose de voulu ou d'orienté
et
par
justement,
les producteurs.
Bah, clairement, en plus, il faut savoir que bon, il tient quand même un peu les la Warner par les couilles, mais il faut pas oublier que non plus que la Warner tient une grande place dans le Hollywood d'aujourd'hui, quoi. Donc il est vrai peut-être aussi que ça peut se ressentir aussi notamment dans le montage. Je sais pas si vous avez si ça vous a choqué un peu comme moi, mais moi le montage du film m'a totalement laissé perplexe. Non seulement parce que ben déjà d'une part on n'y voit aucune scène d'exposition. Alors c'est bien beau d'aller tourner dans 1000 pays si c'est pour pas montrer un seul plan large. On est très très cut, on est très, il y a pas de transition, on respire pas. Et je suis trop à l'étroit dans ce film. Alors déjà que je suis mal à l'aise dans mon cerveau, mais alors si en plus tu me mets à l'étroit.
En fait, ce qui est incroyable, c'est que ça dure 2h30 et que c'est ultra rushé.
C'est ça.
Et là, il y a un problème. Parce que non, normalement, en 2h30, tu as le temps de raconter cette histoire et ça va
peut-être,
vite.
Peut-être par rapport à ça, une explication qui pourrait tenir, c'est que la Warner leur a projeté un film de 3h et que la Warner lui a dit bah non, réduit à 2h30, quoi. Parce que
je pense même
release
pas, franchement.
The Nolan Cut. Mais après, si on peut nuancer, il y a quand même des choses. Tout n'est pas imbitable dans ce film, et en termes de mise en scène, et en termes effectivement de.
Non, mais tout n'est pas imbitable. Après, moi, c'est juste. Quand j'entends Romain dire mon cerveau il est en ébullition, moi, je veux pas que ton cerveau soit en ébullition. Non, mais franchement, en fait,
non, moi, c'est vrai,
moi,
c'est pas normal.
C'est
en fait.
Ça qui m'agace. C'est que le film n'est pas compliqué. Si tu ne le comprends pas, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez intelligent, c'est parce qu'il n'est pas bien raconté. Ouais. Inception, c'est compliqué, c'est bien raconté, tu comprends. Et après, tu le revois en disant ah bah tiens, j'ai raté ce truc.
Il manque énormément de phases dans ce film.
Et mais ça, c'est un gros problème. Et puis, je crois même pas que ça soit la faute du studio. Parce que moi, je suis producteur, tu montes ce montage-là, moi, il passe pas au ciné. Hein. Clairement.
Ouais. Mais en plus, je suis d'accord avec toi, je suis partagé. Je pense qu'il y a une part quand même de la Warner, parce que, en ayant vu les autres films de Nolan, je me dis, c'est incroyable qu'il ait laissé un truc aussi peu clair sortir au cinéma. Et en même temps, je me dis, il y a beaucoup de tics de Nolan dans ce film, et je trouve qu'il faut qu'il fasse gaffe, parce qu'il est à la limite de l'auto-parodie à des moments, notamment sur la musique, où le pauvre Ludwig Göransson, là, il a fait ce qu'il a pu, mais tu sens qu'il est obligé de faire du Hans Zimmer, et du coup, il n'est pas méga à l'aise, et du coup, ça, c'est des énormes vrombissements sur les scènes d'action.
Et tu sens aussi
les
des
trucs que tu as vu mille fois chez
tu
Nolan.
Tu sens aussi des partitions inversées.
Ouais, bon, ça, à la limite, c'est. On pouvait s'y attendre,
ouais,
mais c'est le retour dans le temps et tout.
Avance,
mais d'éthique de dialogue, Michael Caine, excusez-moi, on peut en parler. Ça fait 8 films qu'il fait avec lui.
Il était là juste pour la BA, en fait. Il est là juste pour
donner une info. Enfin, franchement,
on le voit
tu pouvais
autant dans la BA que dans le film.
Il s'appelle Sir Michael, en plus.
Tu pouvais donner le rôle à n'importe qui. Enfin, pourquoi reprendre Michael Caine alors qu'il ne va pas être important ? Je trouve qu'il commence à avoir des tics, et que le personnage qui lui ressemble aussi à Nolan, je trouve que DiCaprio dans Inception ressemble à Christopher Nolan. Physiquement, je trouve que Pattinson ressemble à Christopher Nolan dans Tenet, et je me dis bon, j'aimerais bien qu'il change un peu de disque, c'est le cas de le dire pour la musique, et qu'il repasse à quelque chose de plus humble, parce que ça commence à donner l'impression que c'est pompeux quand même, et que il veut nous donner une leçon, quoi. Et vous l'aviez senti avant dans ces films d'avant, moi jusque là je l'avais pas senti, et là je me suis vraiment senti bête en regardant le film. Et ton titre il était bien trouvé, t'es bête, parce que je suis sorti du film, je me suis dit mais je n'ai rien compris, vraiment.
Mais ce n'est pas votre faute.
Et c'est Johanna qui a été obligée de me refaire le truc, mais en fait c'est le futur machin et tout, et c'est quand même pas normal. Ouais. Je pense pas être idiot, et j'ai compris ces autres films, et là je me dis il y a un problème, c'est inutilement complexe, et il y a notamment des phrases qu'on retrouvait déjà un peu dans Interstellar, mais les trucs genre l'algorithme est dans l'hypocentre, excuse-moi, dis juste la bombe est dans la grotte, je pense que tout le monde y arrive, c'est gérable, tu vois.
C'est comme et, le bulk et le Tesseract.
Ouais, le bulk et le Tesseract dans Interstellar, enfin bref. Et moi j'aimerais parler juste d'un autre défaut dont vous avez pas parlé, c'est au niveau de l'aspect technique, c'est la photographie. J'ai été hyper déçu, j'ai trouvé plate en fait, et terne, et je trouve que pour un gars qui nous vend depuis des mois qu'il faut aller voir le film en salle, en 70mm, IMAX, bon nous c'était pas le cas, on l'a vu en 70mm pellicule, mais c'était pas IMAX, bon c'est déjà bien de l'avoir vu en pellicule, Enfin, moi, je m'attends à un grand spectacle. Tu me dis ça, je m'attends vraiment à en prendre plein les mirettes. Je trouve que c'est quand même super plat. Je trouve qu'en termes de mise en scène, t'es souvent sur du chant contre chant banal. Là où les dialogues d'Inception étaient hyper dynamiques, t'avais un mec qui prenait la parole, la caméra, elle panotait et tout, c'était super bien construit. Là, c'est vraiment chant contre chant. Il y a une séquence dans un container qui est quand même super moche. Et j'étais un peu énervé parce que je me suis dit, mec, tu nous vends l'IMAX, tu nous vends du grand spectacle, ouais, du James Bond et tout. Au final, ça casse quand même pas des briques en dehors des séquences d'inversion temporelle, quoi.
Et c'est qui le chef-op?
C'est Hoyt van Hoytema.
Et qui a fait quoi?
Qui a fait Ad Astra et qui a fait Dunkerque et Interstellar.
C'est ça qui est incroyable.
Donc tu es en droit de t'attendre à de la...
C'est super sombre. On est dans le noir, tout est contrasté, les détails se perdent dans la sombreur, c'est terrible.
Le truc en plus, c'est que le 70 mm, si je dis pas de bêtises, le 70 mm, c'est très utile pour avoir des noirs profonds, quoi. Et du coup, c'est par exemple dans les films d'horreur et tout, ils aiment bien faire ça parce que tu as des gros noirs profonds et c'est cool, ouais, tu peux faire du clair-obscur. Mais là, il n'y a pas de clair-obscur.
Mais c'est ce que disait Romain, c'est que.
Il n'y a pas de clair-obscur, il n'y a rien.
Il n'y a pas de clair-obscur et il n'y a jamais un paysage, enfin, tu vois. C'est-à-dire qu'il te récompense jamais.
Il y a quand même une course
de paysage. Il y a un moment où on voit un paysage, ouais, c'est mais... à la fin quand ils viennent de gagner, entre guillemets, et qu'il y a cet échange entre les trois, là, ouais. Aaron Taylor Johnson, Robert Pattinson et Jean-David. On voit là où ils sont en Russie, ce grand. Désert
ouais.
Et là, pour le coup, moi, j'ai pensé à Interstellar sur la photo de ce paysage et ce plan large, mais une fois à la fin.
Non, mais ouais. La photo d'Interstellar est quand même sublime, quoi. Ah, ouais. Que ce soit sur Terre comme dans l'espace, et là, tu peux, là, franchement.
C'est aride, quoi. Le film, il est sec. Pas.
Enfin, mais Inception, la photo est très bien. Les Dark Knight, la photo est très bien.
C'est pas le même.
Enfin, en tout cas, ouais. ils sont entourés quand même de bons chefs-op, ouais. Donc on avait l'habitude de voir un film de Nolan qui est bien éclairé. Mais là, limite, des fois, c'est lumière naturelle,
c'est
un peu à l'arrache.
C'est
quoi.
Basique, c'est basique.
Là, les scènes de bateau, c'est juste c'est la Bretagne quand il flotte. Quoi.
Et aère ton film, ouais. Il faut qu'on respire. Tu as tourné dans 7 pays différents, de l'Inde jusqu'à la
Estonie,
Russie.
Ouais.
Montre-nous des paysages. Tu aurais pu faire ça en fait dans n'importe quelle rue de ta ville en fait, parce qu'on s'en fout en fait de savoir que t'es en Inde si c'est juste pour faire un vieux plan serré sur tes personnages qui s'amusent à marcher dans la ville et à raconter leurs plans, à prendre le tram et tout.
En mise en scène, ça contribue au fait que ça manque de vie. C'est que t'as jamais un plan large, tu respires pas quoi.
Et l'implication émotionnelle qu'on a par rapport au personnage est inexistante.
Il n'y a pas de perso.
On s'en fiche. Franchement, de tous les risques qu'ils prenaient, j'avais aucune peur pour eux.
Il y a des moments, c'était même pire qu'une non-implication. C'était vraiment une sensation de ridicule parce que, par exemple, le méchant, honnêtement, la scène où il est face à sa femme et qu'il la tabasse et qu'il lui dit. Il lui dit quoi? Le tigre ou le lion? Il lui dit
le tigre,
on ne négocie pas avec lui, on l'admire. Moi, dans ma tête, c'était oh putain, c'est The Gentleman, c'est le retour du lion. Oh là là, oh putain.
Le retour du lion.
J'ai l'impression qu'il citait The Gentleman de Guy Ritchie.
C'est une des pires séquences du film.
Aussi le fait, par exemple, que le héros s'appelle le protagoniste et qu'il le dise, pareil, Guy Ritchie, The Gentleman, excuse-moi. Ouais. Mais je me dis, mais putain, c'est de mauvais goût.
T'as raison, le ridicule aussi qui se retrouve, il a utilisé tous les mots du carré Sator pour nommer des personnages ou des endroits.
Ouais.
Alors t'as Repo, t'as Rotas, t'as Sator, je veux dire au bout d'un moment, le film s'appelle Tenet, ça suffit non?
Non, ça s'appelle pas Tenet, ça s'appelle Branlette, mon gars.
Oh, c'est pas mal, c'est bien ça aussi comme
nouveau
ça.
Titre.
Non, mais c'est surtout que ce carré, il aurait pu en faire quelque chose, ça aurait pu être ça, le Tenet, ça aurait pu être ça, le centre de l'énigme.
Ouais,
scénaristiquement, il en fait rien à part caser des mots.
Il a voulu faire en fait du Nolan, c'est Nolan qui a voulu faire du Nolan parce que peut-être il s'est dit, il faut qu'on m'attend là. Mais je sais pas, ou bien la Warner l'a forcé, il a sorti un scénario qui traînait depuis un moment et s'est dit bah tiens je vais faire Tenet, j'ai pas encore vraiment fignolé le truc mais je vais le censer. Est-ce qu'il ne serait pas en train de nous faire une petite Burtonite
Burtonite.
Qu'est-ce que une Burtonite, professeur Kevin?
Une Burtonite, bah c'est une maladie. Le premier malade est bien entendu Tim Burton.
Patient zéro.
C'est une maladie qui atteint certains artistes, notamment les cinéastes, quand à partir d'un certain stade de leur développement artistique, on sont réduits à se parodier sous l'influence d'un virus appelé le studio de cinéma. Et dans le cas de Burton, c'est une grosse infection au Disney. C'est une très très grosse infection au Disney qui produit la Burtonite. Il y a une variation du virus qui a muté avec le Warner, et qui atteint Christopher Nolan qui maintenant, enfin j'ai l'impression...
Pour l'instant, il présente quelques symptômes.
En tout cas, premier symptôme d'auto-parodie. C'était déjà latent, je trouve.
Faut-il porter un masque?
C'était latent dans les autres films, mais il arrivait à se démerder, il y avait de l'équilibre. Après, peut-être aussi, moi j'ai... pas mal d'analyses de ces films qui disaient qu'à l'époque où son frère écrivait avec lui ça allait mieux. Est-ce que c'est la raison du pourquoi du comment?
Peut-être.
Je ne sais pas.
Peut-être.
Mais c'est possible.
Très bien. Merci beaucoup, professeur Kevin.
Mais de rien.
Vous retrouverez d'autres maladies peut-être plus tard dans un autre épisode de Feta
BA. Et c'est pas pour faire de la démagogie, on n'est pas ministre de la santé ou quoi, mais nous on avait senti avec Kevin, clairement, on avait dit Nolan, problème.
On avait dit.
Et là il s'auto-parodie, et c'est exactement les symptômes que nous avions décrits.
On avait dit, il y a moyen, pour l'instant ça va, mais il y a moyen qu'à un moment il nous fasse une petite Burtonite.
En tout cas, il est en train de partir sur une Burtonite. On verra ce sera quoi son prochain film, mais s'il part comme ça, son prochain film, je peux vous assurer qu'on n'est pas prêt. Il va nous faire sauter le cerveau, parce qu'il devra nous faire sauter le cerveau. Hein. Il passera dans les salles, il nous tirera toute une balle dans la tête, parce qu'on est tous trop cons, en fait.
Non, mais...
Excuse-nous, hein, excuse-nous, Christopher.
Ce qu'il faut surtout affirmer et dire aux auditeurs et au monde entier, c'est que ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que le film est génial et au-dessus de vous et que vous devez l'adorer. Non. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez être déçu en tant que spectateur. Vous pouvez demander
exactement
votre dû. Ce n'est pas forcément ça, le cinéma.
Vous n'êtes pas bête.
Et ça me rappelle une expérience de cinéma que j'avais faite en voyant au cinéma et je me suis dit, en fait, j'ai pas compris, je suis trop con et tout. C'est Quantum of Solace, James Bond. Pour parler de James Bond encore un peu, Quantum of Solace, on dirait vraiment Tenet dans le sens où tu captes rien. Alors je me suis dit, peut-être que j'étais trop con à l'époque, je vais le remater. Plus tard, je l'ai maté quoi, il y a 2-3 ans, je me le suis rematé. En fait, non,
c'est incompréhensible.
Et à ce moment-là, tu te dis, bah, en fait, il y a un problème. Quoi. C'est pas moi le problème, c'est le scénario le problème. T'as voulu trop en faire, Christopher ? T'as voulu beaucoup trop en faire.
Et parce que, pour citer Spielberg, Spielberg, il disait que pour faire un bon blockbuster, il fallait simple story, mais des caractères complexes.
Ouais.
Nolan, il nous fait l'inverse.
Ah, c'est beau. C'est tellement
Nolan,
l'inverse.
Nolan, il nous fait le contraire.
C'est
et c'est pour ça que ça marche. Enfin, dans Tenet, en tout cas,
très
c'est
belle
pour ça que ça marche pas.
En plus, du créateur du blockbuster, pour passer à la suite, parce que peut-être que ce film, malgré toutes nos déceptions, est recommandable. Voilà.
Cette transition est magique.
N'ayez pas peur d'aller le voir, il y a quand même des beaux money shots.
On passe à la rubrique des rococo.
À qui le rococo ?
À qui le recommandez-vous ?
À qui le rococo ?
À qui le recommandez-vous ?
À qui
le rococo ? La rubrique qui nous permet de recommander ce film avec beaucoup de mauvaise foi à des personnes choisies, triées sur le volet.
Ouais.
Kevin, ta rococo.
Et moi, je le recommande à plusieurs personnes. Je le recommande à tous les pilotes d'avion, à tous les capitaines de bateaux, à tous les conducteurs de bus, à vous tous qui nous transportez d'un point A à un point B.
J'avoue, il y a tellement de transports.
Il n'y a que des scènes dans les transports en commun. Enfin, un bateau n'est pas un transport en commun. Mais vous m'avez compris.
C'était ma rococo.
C'est pour vous.
Mais
bon, on a la même.
Je pense qu'ils y sont tous, hein, sans déconner. Bus,
ouais.
Avion, train, bateau.
Il y a tout.
La marche à pied.
Il y a tout. Moi, c'était pareil. Je voulais recommander ça à tous les fans des transports en commun. Vous y trouverez votre compte du tramway à la voiture toute simple, à l'avion, à
au container,
bien
voire
sûr.
Même au catamaran un peu chelou avec des voiles
du
en tôle.
Du futur.
Voilà, un catamaran du futur. Alors, si vous êtes fan de transports en commun et de dialogue alambiqué, comme ça, hein, t'es en train de parler, tu fais un plan, il n'y a que des ellipses. Un coup, ils sont dans un tram, après, ils sont dans un bus, après, ils sont dans un train. Voilà, c'était net, c'est pour vous.
Enjoy.
Clémence, une rococo.
Oui, dans la lignée des transports, je recommande à tous les petits gens qui travaillent dans ces transports, c'est-à-dire les conducteurs de bus. Peut-être vous croyez que votre vie est ennuyeuse, mais il y a peut-être des espions qui parlent d'un plan extrêmement complexe dans votre bus. Tous les gens qui travaillent dans les préparations d'avions pour le décollage, vous pouvez peut-être trouver un lingot d'or au passage quand l'avion sera détourné. Ou alors, même ceux qui s'occupent des containers, peut-être qu'il y a aussi des agents secrets dans vos containers.
Oui.
Vous avez l'impression
attention.
Que vous... Voilà.
On ne sait pas.
Je vous recommande ce film. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette grosse scène money shot dans la BA de l'avion.
J'étais un poil déçu.
Un poil déçu au final. Je préfère l'avion de Dark Knight Rises. Clément, une rococo.
Oui, eh bien, je vais faire une rococo méta, puisque Nolan demande ça. J'aimerais bien recommander le film au Christopher Nolan du passé et savoir si, en voyant ce film de lui, est-ce qu'il le comprendrait.
Regarde-toi dans la glace, wesh.
Eh bien, elle est avec nous. Hello.
Oui, ce serait une bonne question. Si on pouvait le faire, on le fera. Peut-être qu'un jour, quand on découvrira l'inversion... Toi et moi, on ira s'inverser jusqu'à le retrouver là-bas à Londres.
Bah, tu sais, il y a un tourniquet au jardin d'enfants juste à côté, on peut essayer.
Allons essayer de tourner très très vite.
Si tu te vois dans la glace, c'est que c'est bon.
Et si tu vomis, c'est que c'est pas bon. Enfin voilà, Tenet hein, qui se lit dans les deux sens. En tout cas, nous, notre sens, il a été unique et c'était celui de la déception, malheureusement. Allez le voir, faites-vous votre avis. Voilà, on a recommandé ça, évidemment, avec beaucoup de mauvaise foi. Mais allez voir Tenet et puis surtout... vous fixez pas à ça si c'est votre premier Nolan. Dites-vous avant qu'il y a quand même de très très beaux Nolan et peut-être que ça vous permettra de mieux apprécier les suivants, vous allez voir.
Non mais allez-y aussi parce que
En ce moment, il faut soutenir les salles et les exploitants. Et c'est vrai que bon, si vous pouvez aller voir d'autres films, c'est cool aussi. Il y a plein de bons films. Mais ça reste un film spectaculaire pour l'été. Moi, je pense qu'il faut vraiment le voir en mode pas de prise de tête. En fait, j'y vais pour voir de l'action.
Bah, malheureusement, il te prend la tête. Hein, ouais. C'est ça le truc.
Vous y verrez toujours des beaux gosses.
Et puis, si Tenet, on vous a dégoûté, il y a plein d'autres bons films en salle. Donc, allez-y quand même. On parle pas de tout, mais il y a très bons
films.
Allez au
cinéma.
Merde.
Allez au cinéma. C'est pas un virus qui va nous empêcher de kiffer la life, ok? Bon, allez, on va se dire au revoir sur ces belles paroles.
On est pas bien?
Si.
Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà, voilà, c'était donc l'épisode numéro 2 de la saison 2 de Feta Béa, l'épisode 38 en tout, qui nous a permis d'aller explorer les côtes du littoral français avec Poisson Sexe, avec Gustave Kervern et India Air, d'Olivier Babinet, qu'on va s'empresser d'aller voir dès ce mercredi, et de revenir sur la Deception qui était Tenet. La semaine prochaine, comment vous teasez ça ?
Parabellum.
On n'arrive pas après la guerre, mais avant la guerre.
Avant la guerre, après Parabellum, que nous étions fait dans notre épisode numéro combien, Clément ?
4.
Effectivement, nous avons fait John Wick, Jean Faible, Parabellum. Et ici, nous irons voir ce qui se passe avant la guerre. Antebellum, le prochain film de Gérard Bush et Christopher Rance. C'est courant hein, maintenant des duos de ces deux réalisateurs. On en parlera peut-être.
C'est un peu les Nakash et Toledano américains.
Ouais, mais c'est comme les frères Russo, c'est comme tout ça.
Oui.
Instiqué auparavant par les Cohen en 77.
Les frères Cohen, Ethan et Joël, bien entendu. Sûr, mais oui. C'est très bien. Enfin, ah, oui. Voyons.
Avec notamment Janelle Monae et son presque anagramme Jenna Malone.
Oh,
c'est marrant ça.
C'est vrai, les dents.
Ouais.
J'adore.
Et ouais.
Putain, j'ai deux actrices que je kiffe.
Un film d'horreur. Limite fantastique. Enfin, on verra tout ça en se regardant Sabéa ensemble dans notre épisode suivant. Et puis, quoi dire d'autre ?
Bah, on vous fait des bisous. Bah, retrouvez-nous sur les réseaux.
Les réseaux, voilà, les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, les écoutes de plateforme. Allez-y, faites-vous plaisir. On a énormément d'heures de Béa à vous proposer. Et de rire aussi, j'espère. Et puis aussi, pas seulement, hein, de culture ciné. Et puis voilà, faites-vous plaisir, parlez-en autour de vous, ou pas, hein, qu'est-ce qu'on s'en fout, façon.
On n'a pas besoin de vous,
le mec,
de toute manière.
Le mec, il grippe, quoi, qu'est-ce qu'on s'en fout, là, vous écoutez, mais vous êtes qui pour nous, hein. Pas du tout. Merci à tous de nous écouter encore et toujours, et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine. Hein, ma team ?
Ouais.
Les beaux poissons. Allez.
Glou, glou. Voilà,
partons, on a.
Racoudrin.
Partons, on a Jean. C'est parti.
J'y vais en crawl.
Au revoir. Bloup, bloup, bloup.
Shoshana!
Arrête, s'il te plaît.